Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Didibi et Hermione Pouéban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Puisque la solution existe.
Prions.
Excellent Père de gloire, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont des examens, ceux qui ont été au CEP. Merci Seigneur parce que tu les as accompagnés, j'en suis certain, comme tu l'as si bien fait, comme nous te l'avons demandé. Nous avions demandé que pas une goutte de pluie ne les frappe. Tu l'as fait. Nous te rendons grâce Seigneur, nous te louons pour cela. Nous te demandons qu'il en soit encore ainsi, que tout ce que nous t'avons demandé pour ceux qui vont au BPC, que ceux qui vont au bac, soit accompli au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur pour cette chose extraordinaire que tu fais, que tu continues de faire dans nos vies. Merci Seigneur, merci, merci, merci infiniment. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié. Amen. Comment allez-vous? On va y aller très très vite. Alors, Dieu a montré un rocher, le mont Horeb. Il dit à Moïse, je mets mon esprit au-dessus de ce rocher-là. Allez à ce rocher, prends ton bâton, frappe-le d'un coup, le rocher donnera de l'eau. Effectivement, le rocher a donné de l'eau, ils ont bu. La Bible dit à certains endroits, mais apparemment c'est dans d'autres versions de la Bible, il est même écrit qu'à certains moments, Dieu a donné ce que les gens appelaient des puits magiques à Myriam, la sœur de Moïse. C'est-à-dire qu'elle avait la capacité quasiment de faire apparaître de l'eau un peu partout où il passait. Et la Bible dit quelque part que quand Myriam est morte, ils ont eu une grande sécheresse. Ça, ce n'est pas écrit directement qu'ils ont eu une grande sécheresse, c'est écrit dans la Bible. Mais il n'est pas écrit dans la Bible directement que Myriam avait des puits magiques. Mais quand vous faites des recherches, on vous met en parenthèse, dans certaines versions de la Bible, il est écrit même que Myriam avait reçu de Dieu la grâce d'avoir des puits magiques partout où il passait. Donc, l'eau les suivait. Alors, malgré tous ces miracles d'eau qui font qu'ils sont restés dans le désert, leurs habits ne se sont pas usés, leurs chaussures ne se sont pas usées, tout ça, une énième fois, l'eau a manqué. L'eau a manqué dans le désert, vous avez déjà parlé, Dieu vous a envoyé des rochers, l'eau a sorti. Dieu a tout fait chose. Pourquoi quand l'eau manque encore, vous ne lui demandez pas simplement, au lieu de commencer encore à le maudire? Ils ont recommencé à maudire Dieu et à réclamer de l'eau en disant encore une fois, franchement, on aurait dû rester en Égypte. Alors, Moïse, cette fois-ci, c'est Moïse qui s'est énervé. Il dit, mais franchement, merde, j'en ai marre de ce peuple Seigneur. Pourquoi je dois endurer tout ça? Fais quelque chose pour eux. Et Dieu montre à Moïse un autre rocher et dit, parfait, prends ton bâton, va devant ce rocher avec Aaron et dis au rocher de donner de l'eau. Et le rocher donnera de l'eau. Moïse, effectivement, réunit le peuple, il se présente devant le rocher, mais au lieu de dire au rocher de donner de l'eau, comme Dieu le lui avait dit, il dit, regardez, voilà, je vais vous prouver que je peux vous donner de l'eau. Et il frappe le rocher de deux coups et le rocher, effectivement, sort de l'eau. Et Dieu dit, tu m'as désobéi. Je ne t'ai pas demandé de frapper le rocher, j'ai demandé de lui parler. Un. Deux, je t'ai demandé de lui parler pour que je fasse sortir le rocher. Tu as fait comme si c'est toi qui avais le pouvoir de faire sortir de l'eau du rocher pour ces gars. Tu as donc détourné mon miracle en faisant comme si c'était une démonstration de force. Parce que tu as fait ça, tu n'iras pas à Canaan. Ça, c'est l'effet. Et d'ailleurs, quand vous lisez ensuite l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, vous verrez que celui qui a le rocher des siècles, celui qui est la source d'eau vive, celui qui a dit par la suite que si quelqu'un boit de son eau, il n'aura plus jamais soif, c'est Jésus. Cela veut dire que de manière prophétique, parce que je n'arrête pas de vous dire que l'Ancien Testament
est une prophétie du Nouveau Testament. Ce rocher auquel Dieu dit de parler pour donner de l'eau était une préfiguration de Jésus. C'est-à-dire que ce que Moïse a fait, c'est qu'au lieu de parler à Jésus sur l'ordre de Dieu, il a frappé deux fois Jésus. Au lieu de demander à Jésus de donner de l'eau et que le peuple voit en griffe que Jésus, donc Dieu est capable de leur donner de l'eau, il a donné l'impression qu'il avait le pouvoir de leur donner de l'eau. Et quand on comprend que ce rocher, c'était prophétiquement Jésus, son péché se comprend comme d'autant plus grave. Et pour quelqu'un comme lui qui parlait face à face à Dieu, parce que Dieu dit à celui auquel on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Il y a des choses que certaines personnes feront parce qu'ils sont des bébés spirituels, ne comprennent rien, Dieu les fera passer. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas laisser passer de personnes qui le connaissent assez pour ne pas prétendre savoir, pour ne pas savoir certaines choses. Il y a dans la loi qui a été donnée, par la suite, comment il faut gérer la société, les crimes, les punitions. Vous allez voir que la Bible fait très clairement la différence entre les péchés volontaires et les péchés involontaires. Entre les crimes volontaires et les crimes involontaires. Si quelqu'un tue ou quelqu'un fait un péché par inadvertance, par mégarde, par ignorance, Dieu ne traite pas ce péché de la même manière que celui qui sait ce qu'il est en train de faire, celui qui agit en toute connaissance de cause et qui décide de faire le contraire de sa volonté. Si parce que vous n'avez pas un bon niveau spirituel, vous faites des choses que Dieu interdit, Dieu ne vous traite pas dans votre ignorance comme il traitera par exemple quelqu'un comme moi qui sait très bien ce que ça veut dire, pourquoi ne faut pas le faire et qui parce qu'un jour il en a marre d'obéir, décide de ne pas obéir à ce qu'il fait pourtant. C'est pour ça qu'on dit que quand votre sagesse augmente, votre douleur augmente. Paul le dit, attention à ne pas jouer tous les enseignants parce que nous les enseignants nous sommes traités plus sévèrement. Celui qui sait n'a aucune excuse face à certaines erreurs. Et je crois que cela a été une circonstance aggravante pour le cas de Moïse. Ça c'est sûr les faits. La question que j'aime élucider aussi, c'est mais pourquoi Dieu ne le pardonne pas ça? Dieu ne le pardonne pas parce que même si Dieu est pardon, le Nouveau Testament nous le dit, je crois que c'est Paul qui le disait, après avoir fait l'apologie de la grâce, là où il y a le péché, il y a toujours la grâce, là où surabonde le péché, ou plutôt là où le péché abonde, la grâce surabonde, il met en garde. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Parce que personne ne s'y trompe. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera forcément. C'est l'une des lois spirituelles que beaucoup de gens ignorent. Dieu est pardon. Il pardonne le pécheur, mais ne dispense pas des conséquences de son péché. Si ta maman te dit d'attendre le mariage pour avoir des copains, que tu fais la petite agitée, que tu vas tomber enceinte, même si ta maman ne va pas te tuer comme fille, il n'y a rien qu'elle puisse faire pour que tu n'aies pas un enfant, que ça ne change pas toute ta destinée. On ne peut pas te chasser de la maison, on peut te permettre de faire ton enfant, de rester à la maison, de devenir une mère célibataire, tout ce que tu veux. Mais c'est un fait que ta vie ne sera plus jamais la même. La conséquence de ça va marquer toute ta vie. Abraham n'a pas attendu Isaac. Oui, Dieu l'a pardonné. Dieu lui a donné l'enfant de la promesse. Dieu a honoré toutes ses promesses. Mais il n'y a rien à faire pour effacer les conséquences de ce qu'il a semé. Vous prenez des gens comme Paul. Paul a été, avant d'être un apôtre chrétien, le plus grand persécuteur des chrétiens. Il n'y a pas un disciple de Jésus qui a été plus persécuté que Paul. Regardez bien. Paul a été le plus persécuté parce qu'il a été le plus grand persécuteur. Vous prenez quelqu'un comme Pierre, du vivant de Jésus. Pierre l'a renié trois fois en une nuit. Pierre est mort en confessant Jésus. Jacob, le roubleur, le voleur, qui manipule, qui escroque, qui piège son frère pour avoir le droit d'aînesse. Il a été piégé, on l'a obligé à prendre une femme avant une autre et à travailler 14 années pour avoir une femme. Regardez bien, Jacob a subi avec son beau-père là-bas exactement ce qu'il a fait à petite échelle à son frère. Dans la vie, ce qu'on sème, on le récolte toujours. Il n'y a rien à faire. Que personne ne vous blague en parlant de grâce. La grâce vous évitera la mort. Ça ne vous évitera pas de payer le prix qu'on fait. Et c'est pour ça, si quelqu'un ne vous dit pas que s'amuser avec le péché, c'est toujours mortel, la personne ment. Parce que si vous péchez, vous payerez pour votre péché. C'est non négociable. Vous ne mourrez pas à cause de votre péché. Ça, c'est acquis par Jésus. Avant, vous risquez même de mourir. Mais vous allez payer les conséquences de votre péché. Si Dieu dit de faire quelque chose que vous ne le faites pas, c'est clair qu'une sanction va découler de cela. C'est même pas que Dieu va décider de vous sanctionner. Le fait de ne pas faire ça crée des mécanismes qui vont forcément vous pénaliser. Si Dieu dit de payer sa dîme que vous ne la payez pas, il ne viendra pas vous mettre en prison, il ne vous tuera pas. Mais c'est sûr que vous n'allez pas prospérer. Parce que la dîme, c'est le noyau de la richesse. C'est comme une mangue. Quand on te donne une mangue, c'est un noyau. Le noyau, regardez bien le volume d'un noyau, c'est toujours à peu près 10% du volume de la mangue. Si on te donne une mangue, la règle veut que tu manges la chair. Si tu as trop faim, mange la peau. En plus, ça peut te faire plaisir. Mais quand même, il faut jeter à la terre le noyau. Il y a des gens qui vont jusqu'à manger le noyau. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, je l'ai déjà. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous mangez le noyau, vous croyez que vous faites mal à la mangue, mais vous faites mal. Parce qu'un noyau, c'est quoi? C'est un manguier. Celui qui mange la mangue et qui redonne à la terre, qui lui a donné la mangue, le noyau vient de refaire un contrat avec la terre pour avoir d'ici quelques mois un autre manguier. Ce manguier viendra non plus avec la mangue qu'il a mangée, mais avec des centaines de mangues. Et si chaque mangue qu'il reçoit, il a la sagesse de la vie d'en remettre le noyau à la terre, il va rapidement être propriétaire de plusieurs hectares de mangue. Sa fortune ira croissante si chaque fois qu'une mangue vient, il prend la mangue et remet le noyau de la mangue à terre. C'est de l'imbécilité, de la naïveté que de manger une mangue et soit de manger le noyau, soit de jeter le noyau. Parce que les gens pauvres, les imbéciles voient le noyau comme le déchet de la mangue, alors que le noyau, c'est le manguier de demain. C'est pareil pour la dîme. La dîme n'est pas de l'argent qu'on jette, c'est de l'argent qu'on remet dans la terre spirituelle pour avoir demain, non plus le montant qu'on a eu, mais des dizaines de fois, des centaines de fois ce montant-là. Et il est spirituellement impossible de prospérer si on ne respecte pas ces lois de la vie. Dans toutes les cultures, dans toutes les religions, ça existe. Les musulmans feront beaucoup de Sahara, beaucoup de monde et consorts. Les Sahara, c'est les païens. Les musulmans feront de l'aumône. Les chrétiens feront la dîme et des offrandes. Vous n'avez rien dans la vie pour échapper à ça. Quand vous prenez l'équivalent des prémices, même dans nos villages, quand quelqu'un gagne son premier salaire, il va le donner à son père, prie dessus pour moi. Je te le donne en cadeau. C'est une alliance sacrée avec la vie. On redonne à la terre. La Bible dit quelque part que Dieu donnera aux paysans, aux cultivateurs, de quoi manger, aux semeurs, de quoi semer. Chaque fois que Dieu bénit quelqu'un, il lui donne toujours les choses en deux parties. La partie à semer et la partie à manger. Si vous êtes tellement gourmand que vous mangez la partie à semer, vous mangez aujourd'hui tout votre avenir. Demain, vous allez pleurer. Pour avoir un avenir en Dieu, il faut quand Dieu vous donne des choses, faire la part des choses entre ce qu'il vous a donné à manger et ce qu'il vous a donné à semer. Il n'y a rien à faire pour violer cette règle-là et prospérer. Parce que quand vous la violez, les écluses du ciel ne sont pas ouvertes sur votre tête et le dévoreur s'occupe de vous. Ce que les gens appellent la mer trouée là. Ils brassent beaucoup d'argent, mais ils n'en font rien. On appelle ça le dévoreur. La vie, le diable, dont la spécialité est de faire en sorte que tout ce que vous avez pris par le faux se retourne contre vous. Multiplie maladies, escroqueries, mauvaises affaires, malchance, perte d'argent. Il multiplie les très forts. Il a plusieurs trous à son arc. Mais il fera en sorte que vous pouvez voler 1 milliard. Le milliard ne fera rien dans votre vie. Regardez tous les grands voleurs. Ils n'arrivent jamais à un point de dire, voilà, je suis heureux grâce à mon vol, je vais me reposer. Le voleur vole toute sa vie parce qu'il n'y a pas le jour où le voleur va dire, voilà le bilan positif de mon vol. Bien malin qui ne profite jamais. Mais quand on est bête, on vole. Parce qu'on pense qu'on est intelligent. Vous les voyez voler, voler, voler. Et puis un jour, tout s'écroule. Parce que tout est monté sur un château de cartes. C'est des règles de la vie. Dieu est pardon, Dieu est miséricorde. Mais que lui ne s'y trompe. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera forcément. Forcément. Parce que Dieu dit, quand il y a péché, il y a sanction du péché. Si ce n'est pas comme ça, Dieu a menti. Or, Dieu ne ment pas. Première chose. Deuxième chose, Dieu est un juriste. Vous allez voir que le discours biblique est un discours fondamentalement de loi. C'est un discours de loi. La logique, le paradigme biblique est une logique de loi. D'ailleurs, on parlera de la loi pour parler de l'Ancienne Alliance. Les principes de droit s'appliquent donc à la parole de Dieu, au règne spirituel. Ou plutôt, c'est le règne spirituel qui a dicté les principes de droit dans la plupart des pays. Si vous regardez bien, la plupart des textes juridiques dans le monde sont fortement inspirés de la loi biblique. L'un des principes qui viennent de cette loi-là, c'est que personne ne peut payer deux fois pour le même crime. Quand quelqu'un a été condamné et a payé pour un crime, on ne peut plus jamais le condamner pour le même crime. Je ne sais pas si vous me suivez. Si quelqu'un fait un crime qui mérite la mort et qui subit une première condamnation qui est une gifle, on ne peut plus venir le recondamner à mourir. Parce qu'on l'a déjà condamné une fois, on ne peut pas condamner quelqu'un deux fois. Il y a l'autorité de la chose jugée et du crime déjà payé. C'est pour ça que, par exemple, dans une maison, si vous habitez, par exemple, avec des colocataires, avec des voisins, votre enfant fait une bêtise. Par exemple, il a cassé, je ne sais pas, quelque chose dans la maison de votre voisine qui vous énervait déjà ou qui ne vous aime pas. Vous savez que si vous ne faites rien, la voisine va le frapper, va le blesser. Si c'est une sorcière, va le bouffer, par exemple. Qu'est-ce que les gens font chez nous? Ils disent, ils s'empressent de frapper très sévèrement leur enfant, littéralement, pour le sortir de la colère en défi Roménie. C'est-à-dire, on est fait de vous ôter au champ de punition de l'autre parce qu'on présume que ce sera pire pour vous. Quand quelqu'un vous aime, il sait quoi avant que ce vieux-là, c'est un terrible sorcier. Et vous, des enfants du quartier, vous êtes en train de vous insulter le vieux. Votre papa va vous prendre devant le vieux. Il va vous chicoter proprement pour que d'un point de vue spirituel, le vieux n'ait plus aucune légitimité à s'occuper de vous. Parce qu'il sait que si vous ne chicotez pas comme ça devant le vieux, vous ne passerez pas la nuit. On est d'accord? Moïse ayant frappé deux fois le rocher qui est Jésus, Moïse ayant détourné un miracle de Dieu, faisant comme c'était lui, c'est trop gros comme péché pour que Dieu ne fasse rien. Parce que si Dieu ne fait rien, il va vivre tranquillement. Il va mourir de mort naturelle ou de mort plus tard, peut-être, après être entré à la terre promise. Mais quand il va arriver au port du ciel, je vous rappelle que la Bible nous dit que quand Moïse est mort, les anges de Satan et les anges de Dieu se sont disputés son corps. N'est-ce pas? Pourquoi? Cela veut dire qu'il y a eu débat pour savoir si le grand Moïse qui parlait face à face avec Dieu, qui a sorti le peuple de l'Égypte, qui a reçu la loi, qui a eu cette humilité que Dieu a tant aimé, il y a eu débat pour savoir s'il méritait l'enfer ou le paradis. C'est ça que ça veut dire quand les anges de Dieu et les anges de Satan se disputent son corps. Parce que Satan est un procureur général. La Bible dit qu'il est l'accusateur en chef. Il connaît la loi mieux que tout le monde, à part Dieu lui-même. Parce qu'il était le numéro 2 du ciel. Donc en tout cas, il connaît la loi mieux que tous les hommes. Il va dire, Dieu, tu es un magistrat, tu ne peux pas violer la loi que toi-même tu as établie. Tu es lié par ta parole. Et le monde entier s'écroulerait si tu ne respectes pas ta parole. Ta parole dit que si quelqu'un pêche, il doit être puni. Ta parole dit qu'on ne peut pas pardonner à quelqu'un d'offenser le Saint-Esprit. Tu étais le Saint-Esprit, je caricature. Ce gars-là t'a offensé, il t'a frappé. Tu ne l'as pas puni. C'est à moi de ne pas être Dieu. Il n'y a rien à faire. Il m'appartient, il doit venir en enfer. Voilà comment Satan se comporte. Dieu, sachant qu'à ce moment-là, il aura du mal et il n'y aura aucun argument pour éviter, vu cela, que son cher Moïse aille en enfer, était obligé de se précipiter pour lui appliquer une sanction qui fasse que il ayant déjà été puni, il ne peut pas subir la punition de foi. Donc, la sanction, parce que pour analyser la vie spirituelle, il ne faut pas considérer que la mort sur la terre est le pire qui puisse arriver à un être humain. Jésus a dit quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris, dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne tuent pas l'âme. Inquiétez-vous plutôt de ceux qui peuvent tuer l'âme. C'est très important, ce n'est pas une manière de parler. Paul a dit, la vie met un gain, la mort met un gain. Non, la mort là, ce n'est qu'une étape, ça ne devrait effrayer personne qui connaît Dieu. C'est les gens qui ne connaissent pas Dieu qui ont peur de la mort. Quelqu'un a peur de la mort, il n'a qu'à connaître Dieu, faire ce qu'il faut sur la terre pour aller au ciel. Il n'y a pas à faire d'avoir peur de la mort. Parce que la mort, c'est mieux que la terre. Si tu meurs, tu vas au ciel. Franchement, c'est mieux que tout ce qu'on subit ici. Donc, c'est quand on ne connaît pas Dieu qu'on a peur de mourir. Non. La plus grande sanction qui puisse arriver à un homme, ce n'est pas la mort. La plus grande sanction qui puisse arriver à un homme, c'est de mourir et d'aller en enfer. Il vaut mieux vivre 2 ans, mourir et aller au ciel, que de vivre 300 ans, mourir et aller en enfer pour l'éternité. Donc, Dieu sachant tout ça, quand Moïse pêche de cette manière, il a le choix entre lui appliquer une sanction maximum sur la terre, qui somme toute est un cadeau, quand on prend les choses dans leur ensemble, ou ne rien faire et risquer qu'à sa mort, il n'y ait pas d'argument pour empêcher Satan de l'emmener en enfer. Je crois que Dieu, dans sa sagesse, a fait ce qu'il avait de mieux. Il a appliqué à Moïse le plus grand châtiment possible sur la terre, celui d'éternuer sa vie, mais en lui faisant le cadeau, il dit, bon, tu vas mourir demain, monte sur la montagne, regarde la terre promise, donc il a mis toutes les circonstances atteignantes. Bon, maintenant, ça suffit, rejoins-moi. Cette sanction sur la terre-là, le fait qu'il n'ait pas vu la terre promise, cette punition-là permet de dire qu'il a déjà payé pour son crime. Et certainement à compter, je pense, que c'est ce qui a dû se passer dans la dispute entre les anges de Dieu et les anges de Satan sur le corps de Moïse. Et probablement que si Dieu n'avait pas fait ça, les anges de Satan auraient gagné la dispute. C'est-à-dire que Moïse ne serait pas assis aujourd'hui quelque part à côté de Dieu. Voilà pourquoi Moïse n'a pas pu voir la terre promise en dépit de tout. Il l'a vu, mais il n'a pas pu entrer. Des questions? Il y avait une deuxième question. Allons-y. Alors, est-ce que le fait pour un jeune homme ou une jeune fille de ne connaître que des déceptions sexuelles ou affectives est déjà son désert? Je ne pense pas qu'on puisse appeler ça désert. On va venir tout à l'heure à ce qu'est le désert, vous verrez que ce n'est pas ça. Mais ça, comment dirais-je? Le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'un jeune homme et une jeune fille font à essayer d'avoir des relations qui tournent mal? C'est comme si un enfant de 2 ans me dit, chaque fois que je prends une voiture, je fais des accidents. Est-ce que c'est mon désert sur la terre? Je lui dis, mais attends, tu as quel âge petit? 2 ans. Je ne comprends pas encore pourquoi tu dois conduire jusqu'à te plaindre qu'en conduisant, tu fasses des accidents. C'est qu'à 2 ans, tu sois en train de conduire sans faire des accidents. C'est ça qui serait un miracle que nous aurions demandé à Dieu. Mais comment tu as fait pour ce petit-là à 2 ans arriver à conduire des voitures sans faire des accidents? Je ne sais pas si vous me suivez. Pour raisonner par rapport à Dieu, il faut oublier comment le monde fonctionne. Dieu dit que le mode de fonctionnement du monde est une folie. Et voir qu'est-ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu a prévu, c'est qu'un jeune homme, avant d'être marié, n'a rien à foutre de relation jusqu'à ce que ça se passe bien ou mal. Que ça se passe mal est la seule chose normale, parce que ce n'est pas censé se passer bien avant le mariage. Les relations sexuelles, les relations affectueuses ou sentimentales, je ne sais pas trop quoi, quel que soit l'angle sous lequel vous le prenez, hors du mariage, ça ne peut que mal se passer. Dieu qui a fabriqué l'homme, qui a fabriqué la femme, qui a fabriqué le sexe, qui est le maître, le père, le concepteur, le géniteur, le champion de l'amour, dit qu'il est impossible de s'aimer selon son plan et d'être heureux hors de son plan pour l'amour. Quand vous regardez la Bible, vous regardez la création, vous regardez la Genèse, ce n'est pas Adam qui a demandé à avoir une femme. Dieu a créé Adam. Adam n'a pas demandé de femme. Adam fonctionnait et Dieu a vu que quelque chose manquait à Adam. Dieu a endormi Adam et c'est Dieu qui a pris l'initiative de faire à Adam Ève comme lui Dieu voulait. Une femme, une bonne femme n'est pas le choix d'un homme. Une bonne femme est un cadeau de Dieu. Si vous choisissez votre femme, en général vous serez malheureux. Si vous choisissez votre mari, c'est à peu près pareil. Il n'y a pas de technique humaine en termes d'intelligence pour bien choisir son conjoint. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, comme on le dit en fond, une personne, ce n'est pas comme du gombo qu'on peut ouvrir, regarder ce que ça vaut. On ne peut pas scanner une personne. Les gens qui paraissent gentils parce qu'ils ont un intérêt en jeu, parce que vous avez de l'argent, parce que pour une raison ou une autre, vous êtes un parti intéressant, dans le fond, sont des méchantes ou des méchants, parce que c'est valable du côté des garçons comme des filles, qui n'ont que des intérêts égoïstes. Donc, souvent, les gens que nous pensons nous aimer, ou même des gens que nous disons aimer, la réalité, c'est que nous ne les aimons pas tant que ça, et c'est qu'ils ne nous aiment pas tant que ça. Moi, je vais même jusqu'à affirmer qu'il est impossible pour un homme et une femme de se rester fidèles par amour. Impossible. Il est impossible pour un homme et une femme de se rester fidèles par amour. La seule chose qui peut rendre un homme et une femme fidèles l'un à l'autre, c'est d'avoir ensemble une crainte de Dieu. Et c'est pour ça que vous n'allez voir aucun mariage païen où les deux se sont fidèles. Ce n'est pas possible, ça n'existe plus aujourd'hui. Et ça n'existera plus. Les hommes trompent les femmes trompent les hommes. Parce que si c'est l'un pour l'autre là, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a personne qui soit capable d'être fidèle à lui-même jusqu'à être fidèle à quelqu'un. Si vous voulez avoir une femme qui vous sera fidèle, ou que vous voulez être vous-même, que vous serez fidèle à votre femme, ou que vous êtes une femme, vous voulez un homme qui vous sera fidèle, il n'y a qu'une seule possibilité. Trouver quelqu'un qui, même s'il s'en fout de vous, a tellement peur de Dieu qu'à cause de Dieu, il n'ose pas. C'est la seule manière d'avoir un conjoint fiable. D'ailleurs, un conjoint qui est sous le contrôle de Dieu pour vous. Sachant que vous-même, vous êtes sous le contrôle de Dieu pour le conjoint. Si vous déconnez, Dieu vous frappera très dur. Ça, c'est garanti. S'il ou elle déconne, Dieu frappera très dur. Quand c'est très clair comme ça dans votre esprit, vous pouvez aller dormir, oublier votre femme, vous n'avez pas besoin de la surveiller. Dieu s'en occupe. Et vous-même, quand vient la tentation, vous pouvez oublier votre femme ou votre mari. Quand vous pensez à Dieu seulement, si vous le connaissez un peu, ça vous suffit. Quand vous savez ce qu'on perd à être infidèle, quand vous comprenez en Dieu ce qu'on perd à faire de l'adultère, à faire de la fornication, même si on vous donne cadeau, vous allez refuser. Donc, quand vous regardez, vivre ensemble, comme le disait un prêtre, se marier, ce n'est pas se regarder l'un dans les yeux de l'autre. Ça, là, c'est les enfants qui font ces jeux-là à l'école. Un mariage, ce n'est pas le fait de se regarder l'un dans les yeux des autres. C'est la capacité à regarder pendant 40, 50, 70 ans ensemble dans la même direction. Croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile. Mais on ne peut pas faire ça. Se supporter, se pardonner, se découvrir, se comprendre, prier l'un pour l'autre, se soutenir. Quel que soit le temps, quelle que soit l'épreuve, dans le meilleur et pour le pire, si ce n'est pas parce que Dieu est le moteur du couple, ce n'est pas possible. Or, Dieu ne sera pas le moteur d'un copain et d'une copine. Parce qu'un copain et une copine sont en train de violer la loi de Dieu qui dit qu'on n'a rien à faire avec le sexe hors du mariage. Qui dit qu'un homme ni une femme ne peut pas choisir son conjoint. Regardez à l'époque de nos parents. Même moi, je m'en moquais quand j'étais enfant. Vous ne voyez pas qu'à une certaine époque, même dans notre pays, c'est la famille, c'est les parents, c'est les soeurs qui vont choisir la femme pour le fils. Mais en toute honnêteté, nos parents étaient plus heureux que nous d'un point de vue en termes de couple. Les couples se portaient mieux, les gens étaient plus en paix et tout se passait de manière plus harmonieuse qu'aujourd'hui où nous avons la liberté, l'intelligence et la passion qu'il faut pour choisir nos conjoints. Ce qu'on appelait le mariage forcé, à part quelques cas d'abus, quand la famille, analysant certaines variables, va choisir le conjoint pour quelqu'un, ça s'est toujours mieux passé qu'aujourd'hui. Abraham, il a envoyé quelqu'un choisir une femme selon ses critères pour Isaac. Ce n'est pas Isaac qui est parti chercher sa femme. Donc, pour conclure sur ce sujet, puisque ce n'est pas un sujet important, nous avons plusieurs enregistrements sur les questions de couple, de choix de conjoint, de sexualité, de relations avant le mariage. Il y a des enseignements qui sont là. Amenez une clé USB, ils vont vous les copier. Il est impossible que des relations entre deux jeunes hommes ou des jeunes hommes et des jeunes filles hors du mariage ne soient pas des sujets de frustration, de soucis et parfois des choses qui vous brisent et qui vous détruisent. Beaucoup de jeunes hommes et de jeunes filles perdent dans ces moments-là leur capacité à aimer. Ils perdent tous leurs rêves, ils se brisent, ils s'avachissent, ils se détruisent tellement que quand l'heure vient d'avoir un mariage normal, ils ne sont plus éligibles au bonheur du mariage. Surtout quand ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Beaucoup de gens, en jouant avec le mariage ou avec le sexe avant le mariage, détruisent leur chance d'être un jour normalement marié. Cela veut dire que le fait de se brûler dans ce genre de relation est loin d'être un dévers. C'est peut-être des signaux d'alarme de Dieu qui disent « Mon petit, il n'y a rien à faire dedans pour toi, ça ne peut être que malheur. Si tu veux être heureux dans ce domaine-là, il faut attendre que, comme on le dit dans la vie, chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Quand l'heure de ça sonnera, tu seras en train de dormir quand Dieu va t'envoyer la personne. L'autre raison pour laquelle on ne peut pas choisir son conjoint, et ça, moi, j'en ai fait l'expérience, je la fais tous les jours, c'est que, contrairement à tout ce que vous pensez, personne ne sait de quoi sera faite sa vie demain. Beaucoup de couples ont des problèmes parce que l'homme change et la femme change. Moi, je ne suis pas aujourd'hui ce que j'étais il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, je n'étais certainement pas ce que j'étais il y a 10 ans. Regardez-vous bien, vous avancez dans la vie. Vous changez de caractère. Les choses qui vous énervent aujourd'hui ne vous énervaient parfois pas hier. Les choses que vous supportez hier, vous ne les supportez plus aujourd'hui, vice-versa. Il y a des gens qui imposaient leur femme, ils étaient instituteurs. Ils deviennent DG, ils deviennent ministres, ils deviennent députés. Subitement, leur femme les encombre. Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où vous êtes jeune, chacun est encore en croissance dans la vie. Vous ne savez pas dans quelle direction vous allez croître. Si vous êtes parti de là, vous pouvez croître comme ça, vous pouvez croître comme ça, vous pouvez croître comme ça. D'accord? Quelle que soit votre bonne volonté, si par hasard, dans la croissance, parce que vous n'êtes pas maître de votre destinée, le cœur de l'homme médite ses voies, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Il suffit que Dieu te fasse aller par là, qu'elle aille par là, malgré toute votre volonté, vous pouvez vous entendre. Mais quand Dieu vous choisit une femme, et moi je vous dis, j'en fais tous les jours, à chaque enfant de votre vie, vous découvrez qu'il avait laissé dans votre femme quelque chose qui attendait que ce moment-là. Vous avez l'impression que, c'est pas l'impression, c'est évident, que Dieu savait tout le plan de votre vie et de la sienne avant de vous mettre ensemble. Et tous les jours, vous découvrez, mais finalement, c'est vraiment Dieu qui nous a mis ensemble, sinon telle coïncidence, c'est pas normal. Ah, mais finalement, et tous les jours, vous découvrez que votre trajectoire est parfaitement synchronisée par Dieu à chaque étape. Vous arrivez quelque part, quelque chose vous manque, Dieu vous dit, regarde, je l'ai déjà mis là. Vous avancez, quelque chose vous manque, regarde, je l'ai déjà mis là. Et vice-versa. C'est l'une des signatures de Dieu sur le couple. Et beaucoup de gens n'ont pas cette chance-là. Il est impossible de faire ce choix. Je me rappelle que moi, quand j'ai fait mon divorce, ma mère me disait, bon Edgar, la prochaine fois, il faut bien choisir ta femme. Hein? Je lui ai dit, maman, ça tombe bien. Dis-moi comment on choisit bien une femme. C'est quoi les critères à appliquer? Jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a pas répondu. J'ai fini par dire, maman, laisse tomber, c'est Dieu qui donne une femme. Et la Bible dit, une bonne femme est un cadeau de Dieu. La Bible, quand elle parle de sagesse, d'intelligence, elle donne des conseils aux hommes, ne leur a jamais donné de conseils pour choisir une femme. Elle leur a dit simplement qu'une bonne femme, c'est cadeau de Dieu, il faut le faire. Si Dieu ne te donne pas, il ne faut pas forcer. Sinon, tu vas voir les points. Mais quand Dieu te le donne, rien ne peut t'en empêcher. Parce que c'est parfaitement synchronisé sur ta trajectoire. Si Dieu fait qu'un jour tu vas être paralysé et qu'il te faudra une femme qui peut rester avec un homme paralysé pendant 10 ans, au moment où tu choisis ta femme, tu choisis celui qui pourra rester là. Mais si toi tu choisis, tu peux avoir la femme la plus parfaite du monde quand tout va bien. Le jour où tu vas passer de 1 million à 500 000, c'est ce jour-là que tu vas savoir si tu as une femme qui t'aime ou pas. Laissez tomber. Et je vous conseille, vous qui n'avez pas encore choisi de femme, laissez ça à Dieu. Sinon, vous allez pleurer. Et moi, je ne prie pas pour quelqu'un qui a des problèmes de femme ou de garçon. Hein, parce que c'est toujours le produit de la désobéissance. Et c'est des choses qu'on paye toute sa vie. Les erreurs dans ce domaine-là, on les paye toute sa vie. Et je ne vous le souhaite pas. D'autres questions? Oui, allez-y. Oui.
Vous étiez en train de nous faire comprendre que...
Oui, je vous écoute.
Que tout ce qu'on pose comme acte...
Oui.
A toujours... Il y a toujours un fruit que cela apporte. Et là, vous nous faisiez comprendre que si nous commettons des péchés, on perd toujours les conséquences. J'aimerais savoir ce qu'il en est d'abord des péchés confessés et des péchés que je dirais regrettés. Il nous arrive parfois de commettre des actes. Après avoir posé l'acte, on s'entre en soi-même, on prend un instant de silence, on regrette amèrement ce péché et du fond du cœur de soi, on demande aux gens un pardon à Dieu. J'aimerais savoir ce qu'il en est de ces péchés.
Cela vous évite la mort. Mais pas les... Cela vous évite la mort. Parce que la conséquence du péché, sans le repentir, c'est l'enfer. Et donc, vous semblez banaliser le fait que quelque chose vous évite l'enfer. C'est parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle l'enfer. Il y a un très bon livre là qui s'appelle, je crois, 26 minutes en enfer. Vous ne savez pas ce qu'on appelle l'enfer. Pour imaginer l'enfer, imaginez ce qu'il y a de pire sur la terre. En termes de souffrance, de feu, de faim. Imaginez le pire qui puisse arriver à un homme. Imaginez-vous dans l'acier, d'être giflé, d'être scié, d'être mâché, d'être écrasé, d'être découpé. Mais avec la particularité que vous ne pouvez pas mourir, on ne dort pas en enfer, on ne meurt pas en enfer, on ne peut pas, il n'y a rien à faire. C'est vous souffrez totalement, intégralement, en permanence, dans l'absolu et sans fin. Ce n'est pas affaire de 1 siècle, de 2 siècles, c'est pour toujours plus, rien ne peut vous ramener en arrière. Et les gens ne savent pas ce qu'on appelle l'enfer. Donc, quand on dit que Jésus nous a évité l'enfer, on dit bon, ça c'est un détail. Mais ici, là, si vous saviez ce qu'on appelle l'enfer, vous sauriez que... Ce que la repentance vous accorde, et encore la repentance si vous avez cru en Jésus, la repentance si vous croyez au sacrifice de la croix, la repentance si vous croyez en ce que Jésus vous a acquis, la justice, vous évite l'enfer. Mais ça ne vous évitera pas de payer les prix. Vous serez sanctionné sur la terre pour ce que vous ferez sur la terre. Bien entendu, comme je l'ai dit, plus vous êtes inconscient de ce que vous êtes en train de faire, plus la faveur de Dieu dans la sanction sera grande. Plus vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire, plus le châtiment sera grand. Donc, si quelqu'un dit, bon, moi, je suis chrétien, cela étant, je peux me prostituer, c'est pas grave, après, je vais demander pardon à Dieu, on appelle ça de la foutaise. Et Dieu va vous traiter comme toute personne qui fait de la foutaise. Écoutez, ne vous fâchez pas, hein. Moi, je ne prends pas de dîmes, je ne prends pas de quête. Donc, je peux dire la vérité que certains ne peuvent pas dire. Parce que si vous dites la vérité, vous allez être donné les 10 000 quêtes. Il n'y a aucun homme qui peut vous éviter l'enfer si vous ne donnez pas votre vie à Jésus. Et il n'y a aucune prière pour vous éviter que les lois de Dieu s'appliquent. Jésus n'a pas pu prier pour éviter ce que Dieu a prévu. Aucun homme dans l'histoire ne peut empêcher Dieu d'accomplir son plan. Vous encore moins, à part d'obéir. Donc, il n'y a même pas un film. Il doit bien y avoir une solution pour pécher quand même sans problème. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est terrible, mais il n'y en a pas. Lisez Deutéronome 28 au chapitre 15, vous verrez. C'est clair, si tu pêches, voilà les sanctions. Il va te frapper, il va te chicoter, tu auras faim, tu auras... Regardez bien, tous les maux de l'humanité sont les conséquences du péché. Quand vous lisez l'Ancien Testament, regardez bien, c'est toute l'histoire de comment quand le peuple d'Israël obéit à Dieu, il est béni, et comment quand il désobéit, Dieu le frappe. Aucun problème n'est jamais arrivé au peuple d'Israël qui n'ait été décidé par Dieu. Regardez bien, rien n'est jamais arrivé à Israël qui n'ait été décidé, parfois suscité par Dieu. Ou alors, quand c'est l'ennemi qui le planifie, que Dieu ne dit pas, je permets, frappez-les. Rien n'est jamais arrivé à un enfant de Dieu qui ne soit permis par Dieu pour quelque chose. Il y a même des endroits, on le voit, dans la sortie, dans le désert. Il y a des moments où, parce qu'ils ont commencé à se plaindre, on dit, Dieu a allumé un feu qui a commencé à détruire tout le camp. Dès qu'ils ont demandé pardon, le feu s'est éteint. À un autre endroit, ils ont péché. Dieu a envoyé des serpents qui les mordaient. Ils se sont répondus, c'est arrêté. Chaque fois que vous vous moquez de Dieu, il envoie un fléau. Ce que les hommes ne comprennent pas, c'est que tout ce que vous appelez problème là, ce n'est pas tant Satan qui vous attaque, hein. C'est Dieu qui permet que Satan vous attaque pour vous discipliner. Regardez bien, personne n'a jamais attaqué Israël sans que Dieu ne le permette. Soit c'est parfois lui qui dit, je vais susciter Babylone pour vous déporter. Je vais susciter la Syrie pour vous attaquer. Et Dieu suscite celui qui va mater son peuple, parce que son peuple mérite qu'on le corrige un peu. C'est comme certains papas, quand ils sont dépassés par leur enfant, ils demandent au commissaire de venir chercher leur enfant, de le chicoter, de le coffrer quelque temps pour qu'il comprenne. Ce n'est pas que le papa veut, mais il est dépassé, il a obligé d'aller chercher le méchant pour venir corriger son petit, espérant le redresser. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Même si l'ennemi vous attaque, regardez bien avec les David et consorts. David n'a jamais perdu aucune bataille. Comme c'est dans le corps de Dieu, il n'a jamais perdu aucune bataille. Les Josué, tant qu'ils obéissaient à Dieu, ils n'ont perdu aucune bataille. Quand ils perdent une bataille, ils s'arrêtent en même temps pour dire, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et il te dit, il y a temps. Un bandit parmi vous a pris ce que j'ai dit de ne pas prendre. Tant qu'il est au milieu de vous, je vous frapperai. On dit où il est, on le trouve, on le tue, on commence à gagner. Vous ne verrez jamais dans la Bible quelque part où un enfant de Dieu a été attaqué et Dieu n'a rien pu faire. Et puis bon, Dieu dit, je m'excuse, je dormais pendant qu'on t'a attaqué, je n'ai rien pu faire, la prochaine fois je vais te protéger. Ça n'existe pas. Si vous recevez un coup de la vie, c'est que Dieu l'a permis. Si quelqu'un fait faillite, si quelqu'un est malade, si quelqu'un a des problèmes, si quelqu'un fait un accident, tout ce qu'on a, nous appelons problème là, on fait comme si Dieu est là, nous sommes ici, nous subissons, et maintenant appelle Dieu pour nous sauver. Si ça vous arrive, c'est que Dieu l'a permis. Si vous étiez si proche de Dieu que c'est que vous faisiez ce que Dieu avait dit de faire, ça ne vous arriverait pas. Ça ne veut pas dire que Dieu veut votre mal, mais il est obligé parfois de laisser le mal vous arriver afin que vous parveniez à la repentance. Je donne toujours cet exemple-là. Si une maman passe tout son temps à dire à son enfant qui a 2 ans, qui vient à la cuisine, de ne pas s'approcher du feu, l'enfant ne veut jamais comprendre. Si la maman est intelligente, parce que des fois, il y a de l'eau chaude, des fois, il y a de l'eau bouillante, des fois, il y a de l'huile bouillante. Elle se dit, mais un jour, je ne serai pas là, ou je ne vais pas faire attention. Ce petit-là va mettre la main dans de l'huile bouillante, il va me créer des problèmes. Surtout si je suis dans une famille où j'ai déjà des co-épouses qui ne m'aiment pas. Donc, le jour où le garçon arrive, et il y a de l'eau qu'on vient d'enlever du feu, ce n'est plus en train de bouillir, mais faire bien chaud. La maman est fatiguée de parler. Elle voit l'enfant qui veut mettre la main dedans. Si elle est sage, elle va diminuer le milieu d'eau. L'enfant met la main dans l'eau chaude. Il dit, aïe, 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 aïe. Et vivi. Vous ne verrez plus jamais cet enfant là rentrer à la cuisine et chercher à mettre la main dans quelque chose. Même si c'est de l'eau froide et que c'est fermé, il dira aïe, 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 il ne mettra plus jamais sa main dedans. Ça veut dire quoi? Ce petit là va croire qu'il a été brûlé parce que les gens n'étaient pas vigilants. Mais sa maman avait la capacité de l'empêcher d'être brûlé. En criant une fois encore comme toujours. Mais cette fois-là, elle a dit, bon, maintenant ça suffit. Laissez-le être brûlé. Aucun enfant ne meurt parce que sa main était un peu brûlée. D'ici quelques jours, ça sera cicatrisé. Il vaut mieux qu'il se brûle que d'ici quelques jours, ça sera cicatrisé, que de risquer qu'un jour, il me mette la main dans de l'huile bouillante et que là, je ne puisse plus rien faire. Dieu, de la même manière, va dire, ces petits, la tête qu'ils agissent là, ils vont finir en enfer, bon Dieu. Ils vont faire gagner Satan. Bon, comme je ne veux pas qu'ils fassent gagner Satan, appliquez-les-moi la correction. Même s'ils font tuer quelques-uns parmi eux, tuez-les. Au moins, ça va arriver, les autres pour l'éviter. L'enfer. C'est-à-dire, pour comprendre Dieu, Il faut regarder la finalité de Dieu. C'est de vous éviter l'enfer. Tout ce qui vous arrive est permis par Dieu pour que vous compreniez quelque chose. Si vous êtes pauvre, c'est que vous n'avez encore rien compris à comment Dieu veut qu'on se comporte pour être béni. Le jour où vous le comprendrez, vous ne serez plus pauvre. On n'a pas besoin de prier pour vous, de vous imposer les mains. On niaise. Si les prières sauvaient les gens, il y a longtemps que tout le monde serait sauvé. On prie trop pour les gens bénins. Ou bien, n'importe quel pasteur voit n'importe qui, il lui impose les mains, il prie pour lui, il déclare des choses. Et rien ne change jamais dans la vie des gens. C'est du babadage. Un pasteur, un prêtre, n'importe quoi, il n'a aucune autorité en dehors de la volonté de Dieu. La Bible dit même quelque part, malheur aux prophètes qui disent à celui auquel Dieu en veut qu'il est béni. C'est écrit dans la Bible. Malheur aux prophètes qui disent à celui qui est puni par Dieu qu'il est béni. Tu es par exemple une femme adultère, prostituée. Tu as vécu dans la débauche. Tu ne t'es jamais repenti. Tu te maries avec un homme en te disant que lui a l'argent, tu vas continuer à te prostituer. Et tu veux avoir un enfant pour avoir bonne conscience dans la bonne famille. Dieu t'empêche d'avoir un enfant parce qu'il sait que le petit latin ne décide jamais d'être là. Tôt ou tard, il va le pousser à partir pour entrer dans sa destinée. Tu fais tout, tu n'auras pas d'enfant. Dieu est en train d'éviter que le pauvre Dieu ait un enfant qui va le lier à toi. Tu vas voir un pasteur, va faire des prières au nom de Jésus, je déclare, pas de stérilité. Dieu dit que ces prophètes-là sont maudits parce qu'ils sont en train de bénir quelqu'un que lui est en train de punir. On voit n'importe qui, on lui impose des mains, on commence à déclarer des choses sur sa vie. Quelqu'un est voleur, il a passé tout son temps à piller les gens. On veut construire l'école, il bouffe l'argent de l'école. Des enfants font des dizaines de kilomètres pour aller à l'école. On veut construire une maternité, il est entrepreneur, il bouffe l'argent de la maternité. Des femmes veulent accoucher, elles meurent. Lui ne voit pas ça, qu'il a fini de bouffer l'argent du projet. Après, il fait faillite, il arrive quelque part, on commence à lui imposer la main. Au nom de Jésus, quel Jésus veut le bénir? Jésus veut d'abord qu'il se repente. Je connais un cas que nous sommes en train de traiter actuellement. Un monsieur, il a passé son temps à mépriser des femmes. Au moins 3 ou 4 fois dans sa vie, il était un opérateur économique. Chaque fois qu'il avait des difficultés, il tombait sur une femme qu'il faisait semblant d'aimer, qui souvent était connectée à un oncle ou à une tante ou à un ami qui est très riche. La femme allait s'endetter, convaincre ses parents, lui apporter des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions comme capital pour son entreprise. Il tourne, il dilapide, en sortant avec plein de femmes et il finit par devoir à la femme, par devoir à ses parents, il jette la femme, il passe à autre chose. Il a fait ça 3-4 fois. Aujourd'hui, il est devenu un grand chrétien, à l'époque, il ne connaissait pas Jésus. Il fait tout, ça ne marche pas. Il gagne un peu d'argent, il en perd. Il gagne l'argent, il en perd. Finalement, mon épouse a une révélation, l'a appelé, il dit, mais est-ce que tel? Il dit oui, tel oui. Tu es sous la malédiction. Tant que tu ne vas pas aller voir ces gens-là, tant que tu ne vas pas voir ces femmes leur demander pardon, tu ne seras jamais béni. Tu es sous la malédiction. Tu as commis trop de crimes sur des femmes. Endettant les gens de centaines de millions, les jetant comme des serpillères. Et tu tournes aujourd'hui, tu es en Jésus. Mais ce qu'on sait, on le paye. Pendant que vous êtes jeune, ne faites pas n'importe quoi. Hein. On le paye. Mais Dieu est miséricordieux. Ton jour est doux et léger. Mais on devra passer par la repentance. La règle de Dieu est simple. Si tu obéis, tu es béni. Si tu désobéis, tu es maudit. On est malade pourquoi? Parce qu'on a fait un péché. Quelle maladie vous connaissez qui n'est pas dû à un péché? Hypertension, crise cardiaque, ulcère, ça c'est la maladie de la colère, du fait de ne pas pardonner, de s'énerver, d'être jaloux, d'être rancunier, de penser à ce que les hommes ont de mauvais, de penser aux bénédictions de Dieu, d'être ingrat, d'avoir peur du lendemain. C'est la série de péchés qui crée ces maladies. Il n'y a aucune autre cause. Quand on dit diabète, on dit gros et consort, excès de table, trop de vin, trop de bonbons, trop de chocolat, trop de lait. C'est interdit par la Bible. Ou bien, palu. Dieu dit d'être propre. Regardez toutes les règles que Dieu a mises sur l'hygiène, comment on devait laver les choses, purifier les choses et tout ça. Les gens vivent n'importe comment, sans aucune règle. Tout ce qui arrive à l'homme de mauvais est la conséquence d'un péché. Le jour où vous comprendrez ça, vous allez faire un grand pas spirituel. Ce n'est pas que vous êtes là, dans la nature, personne ne s'occupe de vous, et puis Satan vous frappe et vous priez Dieu de vous sauver. Satan ne vous frappe que quand Dieu l'a autorisé à vous frapper parce que vous n'êtes pas sur le chemin de Dieu. Quand vous revenez sur le chemin de Dieu, il vous protège de beaucoup de coups. Il ne laissera passer que quelques coups. Il dit d'ailleurs quelque chose de très important. Dieu ne vous laisse prendre aucun fardeau qui dépasse votre capacité. Dieu ne permet jamais qu'un problème qui peut vous tuer vous atteigne, si vous êtes avec lui. Il peut permettre des problèmes comme des vaccins, de temps en temps à petite dose homéopathique, pour vous fortifier. Mais il ne laissera jamais un problème qui peut vous briser, vous arriver. Ça veut dire que quand Dieu permet un problème, c'est généralement pour vous fortifier, pour vous entraîner, pour que vous grandissiez. Et c'est pour ça que les problèmes vont croissant dans la vie. Tu reçois aujourd'hui un problème de niveau 1, tu t'en sors. Ça veut dire que tu es devenu plus fort. Demain, tu ne veux pas t'envoyer un problème de niveau 1, ça devient joué. Tu vas t'envoyer un problème de niveau 3. Tu vas tanguer, tu vas t'en sortir. Tu vas passer en classe supérieure. Il ne faut pas penser que le combat est fini. Il n'y a rien à faire. Demain, c'est un problème niveau 5. Les problèmes vont en grandissant parce que vous grandissez. Et on donne à un enfant, qui donne à un enfant de CI, de factorisation ou des dérivés à faire? Personne. Mais quand tu arrives en maths physique à l'université, bon, si tu ne sais pas faire ça, ce n'est pas la peine d'aller à l'école. Donc, les problèmes croissent avec votre force. Dans le but de vous édifier, nous avons déjà dit, c'est un camp d'entraînement que la vie. Un camp d'entraînement qui vous prépare au ciel. Et l'histoire du désert, c'est ça. Le désert, c'est après être sorti d'Égypte, donc sorti de la captivité, sorti du monde, sorti du milieu des païens, un chemin vers la terre promise. La terre où coule le lait, le miel, c'est-à-dire tout ce que vous rêvez d'avoir. La santé, la sécurité, la paix, la joie, la prospérité. Tout ça, c'est à Canaan. Entre l'enfer du monde et Canaan, il y a le désert. Il y a des gens qui y passent 2 jours. Il y a des gens qui y passent 2 ans. Il y a des gens qui y passent 40 ans. Il y a des gens qui y meurent. Et comme vous voyez en termes de statistiques, la majorité y est mort. Et notez un certain nombre de choses. Premièrement, ces gars-là étaient des esclaves en Égypte. Comme tout le monde est un esclave de Satan quand il est pécheur. Mais ils sont tellement bêtes que quand vous les voyez parler après de l'Égypte, on se demande, mais ils étaient en esclavage en Égypte, on a mal compris. Ils ont passé tout leur temps à regretter l'esclavage. Est-ce que vous avez remarqué ça? Des esclaves pendant 400 ans. Ils pleurent tellement que Dieu fait des miracles comme ouvrir la mer morte et défier Pharaon pour les libérer. Et pendant 40 ans, ils passent tout leur temps à pleurer en disant, on aurait dû rester en Égypte. Ça, c'est la vie des chrétiens. Ils quittent le monde, les boîtes de nuit, les filles, les garçons, les affaires, le vin, le champagne, les bars climatisés, les buvettes avec la bière, les petites filles, qui les tuent. Dieu les sauve, ils rentrent dans le désert. On va le voir tout à l'heure, le désert, c'est pas là où coule le lait, le miel, c'est là où on mange la manne. C'est-à-dire, Dieu vous donne le strict minimum pour tenir en attente d'arriver dans la terre promise. Mais quand ils sont là, voyant les efforts à faire pour traverser le désert, ils commencent à regarder derrière pour se demander si l'esclavage n'était pas encore meilleur. Et c'est comme ça que vous voyez des gens arriver à Jésus aux premières épreuves, ils retournent dans le monde. Ils retournent en enfer, en fait, pas ignorance. Quand vous regardez, vous demandez, mais comment ils peuvent préférer l'enfer au désert? Oui, les deux ne sont pas bons, mais le désert, au moins, c'est beaucoup mieux que l'enfer. Mais nous avons tendance. Ce n'est pas en tout. Chacun de nous a des domaines dans lesquels il a tendance à regretter l'Égypte. Et oui, on mangeait de la viande. Oui, vous mangez de la viande, ça faisait quoi sur vous? On vous chicotait, ils oubliaient qu'on les flagellait les deux tous les jours. Et on oubliait, ils oubliaient qu'on tuait leurs enfants. Quand on est loin de l'Égypte, on oublie subitement que l'Égypte, c'est un enfer. On commence à regretter l'Égypte. Et moi, j'ai fait l'expérience de certaines choses qui m'ont fait comprendre pourquoi Dieu a permis que le pharaon accroisse sa méchanceté sur les Israélites avant leur départ. Écoutez, malgré tout ce qu'ils ont subi là, ils ont trouvé le moyen de regretter l'Égypte. Imaginez qu'ils n'aient pas souffert comme ça avant le départ. Mais ils allaient courir pour venir en Égypte. Si vous êtes dans une situation qui est mauvaise, et Dieu ne permet pas que vous découvriez vraiment grandeur nature, à quel point elle est mauvaise, et vous en sort aux premières épreuves, vous courez pour venir dedans. Vous êtes dans un couple qui va vous tuer. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont une mauvaise femme ou un mauvais mari. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont une mauvaise femme ou un mauvais mari. Si le jour de votre mariage, Dieu empêche le mariage, vous allez tourner, vous allez réorganiser, vous allez même tuer vos parents pour vous marier avec cette femme. Vous allez dire, elle ne vaut rien. Elle va dire, il n'y a pas de problème, c'est le petit Nakale. Il va vous laisser goûter un peu à ce qu'il y a dedans. Après, vous n'avez plus de chance quand vous avez quitté. Dit que, ah, j'aurais dû, il faut le... Parce que vous avez goûté. C'est une des règles de Dieu. Il permet que vous goûtiez un peu à la souffrance de vos choix avant de vous sortir de cela. Parce que si vous sortez trop tôt, vous allez regretter ça en essayant d'y revenir. À un moment, on n'a plus le temps de faire cette expérience. C'est pour ça que les gens disent, oui, mais si c'était une mauvaise personne pour moi, si c'était un mauvais projet, pourquoi Dieu ne m'en a pas empêché? Dieu ne t'en a pas empêché parce qu'il a certainement dit, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais comme tu n'es pas habitué à l'écouter, tu n'as pas discerné sa voix. À un moment, il s'est dit, c'est pas compliqué. Ce petit-là, ou cette petite-là, si elle ne fait pas l'expérience, elle ne comprendra jamais. Laissez-la y aller. Je vais veiller à ce qu'elle ne meure pas, mais laissez-la y aller. Il faut qu'elle prenne quelques coups. Après ça, on parlera moins pour qu'ils comprennent que c'est pas bon. Beaucoup de choses nous arrivent comme ça. On appelle ça la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas que Dieu veut, mais il permet. Vous pouvez vouloir vous marier, vos parents vont dire, cette femme-là, jamais. Ils disent 3-4 fois, tu t'en fous, tu es en train d'organiser ton mariage. Ils disent, oui, qu'il y a d'invitation. Ils disent, bon, ce n'est pas grave, on va y aller. Ce n'est pas qu'ils souhaitent que tu te maries. Ils ont fini par dire, allons-y quand même. Parce qu'ils savent au fond d'eux que, en tout cas, peut-être que ça a marché, mais ils savent qu'ils ont permis parce que tu ne voulais pas comprendre. Vous allez voir même avec Balak et Malam, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Dieu fait de l'ironie, hein, il faut faire attention. Dieu fait de l'ironie. Aux gens têtus, Dieu fait de l'ironie. Et c'est arrivé à Balaam. Balaam était un grand prophète qui écoutait Dieu et qui prophétisait. À un moment, le peuple d'Israël, justement, rentré dans la terre promise, était tellement fort qu'ils étaient en train d'avancer. Parce que quand Dieu leur a donné la terre promise, c'est un grand territoire. Ils étaient 12 tribus. Dieu a demandé que chaque y conquiert le pays, étape par étape, et se le partage. Donc, c'est comme si une armée terrible arrive à Port-Novo. On sait qu'ils sont 12, il n'y a rien à faire, ils vont prendre les 12 départements. Donc, les gens qui sont déjà à parcours se disent qu'il faut faire quelque chose pour arrêter, faire gaffe à la parole qui sont pour nouveau, parce qu'il n'a rien à faire pour qu'il n'arrive pas à parcours. On sait que Dieu leur a donné le Bénin. Ils sont entrés à Porto-Vaux, il les a arrêtés. Je ne vois pas ce qui va les arrêter, ils vont arriver à Paran. Donc, un de ces rois Balak est parti voir le prophète Balaam pour dire, bon, moi je suis prêt à te payer n'importe quoi pour que tu me maudisses un peu. Parce que les gens avant et les gens spirituels aujourd'hui le savent, quand Dieu maudit quelqu'un, le pire qu'on peut souhaiter à son ennemi, c'est qu'il soit maudit par Dieu. Rien ne peut dépasser ça. Quand Dieu te maudit, tu as déjà tout perdu, tu n'as rien. Si ces gens ont dit, bon, il faut détruire leurs armées, il faut faire qu'ils échouent, il n'a pas dit ça, il dit, pardon, maudis-les pour moi. Parce qu'il sait qu'être sous la malédiction, c'est pire que tout. Et être sous la bénédiction, rien ne peut plus rien vous faire. Tout le reste là, c'est des détails. Si Dieu veut te bénir, il a 1000 cordes dans son arc, on ne peut pas l'empêcher de te bénir. S'il te maudit, personne ne peut te sauver. Ça, beaucoup de gens n'ont pas compris. Donc, il demande à Balaam de lui maudire en échange d'argent les Israélites. Balaam regarde, il dit, l'argent lui plaît, mais il lui dit, ce peuple que tu vois là, Dieu les a bénis. Et celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Non, il faut le laisser tomber. Balak, qui est un cupide, qui est un corrupteur, va, il envoie encore plus d'argent, plus de trésors à Balaam. Balaam, j'insiste, regarde, je double encore la mise. Maudis-moi ces gars-là. Ça veut dire que Balaam sait bien, et il savait bien, que Dieu les a bénis, qu'on ne peut pas les maudire. Mais la tentation était tellement forte qu'il s'est dit, bon, ok, comme tu insistes, laisse-moi prier pour demander à Dieu si je peux les maudire. Il demande à Dieu s'il peut les maudire. Dieu dit, je les ai bénis. Tu ne peux pas les maudire. Mais au contraire, dis-lui qu'ils sont bénis et prononce telle bénédiction supplémentaire sur eux de ma part. Balaam rencontre, ça veut dire qu'il sait doublement que Dieu ne veut pas les maudire. Parce que le gars accroît encore la mise, l'argent encore plus. Il dit, bon, peut-être que Dieu a changé d'avis. Laisse-moi demander encore à Dieu s'il est vraiment sûr qu'il ne veut pas que je les maudisse. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il prie, il demande à Dieu s'il peut les maudire. Et Dieu dit, oui, maudis-les. Et lui-même, il prend son âne. Il se met en chemin pour aller les maudire. Arrivé à certains endroits, son âne refuse d'avancer. Il frappe son âne, il fait tout, l'âne refuse d'avancer. À un moment là, il lui dit, mais pourquoi tu me frappes? Je suis ton âne depuis toujours, est-ce que je n'ai jamais refusé d'avancer? Tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un qui nous barre le chemin? Il dit, qui? C'est à ce moment que Dieu ouvre ses yeux, il voit un ange avec une épée qui s'apprêtait à le tuer si elle faisait un pas de plus. Et l'ange lui dit, si ton âne ne t'avait pas sauvé la vie en s'arrêtant, j'allais te tuer. Madame lui dit, mais tu m'as dit de le maudire. Et si Dieu pouvait répondre, il va dire, ah oui. Après avoir dit deux fois de ne pas le maudire, tu crois que j'ai pu changer d'avis et te dire de le maudire. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous savez comment on fait là. On demande quelque chose. On sait que c'est mauvais. On sait que c'est mauvais. Bon, c'est pas grave. Je vais demander un signe à Dieu. Je vais demander que si mon téléphone sonne, ça veut dire que je peux coucher avec cette femme-là, bien que ce soit interdit. Faites ça. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. On sait que c'est interdit. Mais dans la tentation, on dit qu'on va demander à Dieu un signe que exceptionnellement il permet. Notez dans l'histoire de Balak et Balaam que Dieu fait de l'ironie. Il va dire à mon petit, tu fais comme si tu ne fais pas. Okay, vas-y. Il va dire, oui, Dieu a dit d'y aller. Il va vous chicoter. Vous n'avez jamais oublié. Parce que vous êtes censé savoir que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne change pas sa parole. Son oui est oui, son non est non. Il n'est pas un homme pour se repentir, pour se tromper ou pour changer d'avis. Quand il a dit oui, c'est oui. Quand il a dit non, c'est non. Donc attention. Vous pouvez prier, demander à Dieu des rêves, des signes, des prodiges pour confirmer ce que vous savez qu'il a refusé. Attention, il peut vous faire l'ironie de vous confirmer. Vas-y, on va voir. Et il va vous voir. Vous allez dire oui, mais j'ai prié. Il va dire d'avancer. Rappelez-vous l'histoire de Balaam. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce côté de Dieu. L'ironie, je vous le souffle aujourd'hui. Dieu fait de l'ironie. Bien entendu, quand il sait que tu sais très bien que ce que tu fais, il ne le veut pas. Et donc, c'est une foutaise. C'est comme si on dit, on ne doit pas prendre, je sais pas, on ne doit pas voler. Tu voles, tu dis, bon, monsieur le président, hein, vous m'autorisez à voler, non, vous êtes d'accord pour que je vole, non? Il dit, oui, c'est ça, vole, vole. Tu pars, il va dire, ah, c'est même assez petit imbécile. Parce que c'est même une foutaise que se présenter devant une autorité pour lui demander s'il permet que vous fassiez ce que vous savez très bien qu'il a interdit. Et donc, quand vous regardez bien le désert, c'est une période de transition obligatoire. Nous l'avons déjà vu hier. Personne ne passe de l'Égypte à Jéricho sans passer dans le désert. Ça n'existe pas. Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert. Paul a passé 3 ans dans le désert d'Arabie. Les Jacob, les Abraham, les Isaac, les Moïse, n'en parlons pas. David, n'en parlons pas. On ne peut pas échapper au désert sur le chemin de passer de pécheur, de personne pourrie, de personne qui échoue, qui va mourir, à celui de personne qui va être béni. Le désert est un camp d'entraînement. Nous avons vu hier quelqu'un qui nous a dit, service militaire, c'est fait pour casser les durs et pour quoi? Et pour redresser les murs. Un service militaire, c'est fait pour casser les durs et pour redresser les murs. Voilà exactement ce qu'est le désert. Un plan de Dieu, un processus de Dieu pour casser les durs, pour casser les orgueilleux, pour casser les pécheurs et redresser les murs. Vous allez voir quand vous regardez, lisez Exode, par exemple, lisez le livre des Nombres, lisez Josué, vous allez voir que c'est dans le désert que les Israélites qui ont quitté l'Égypte ont commencé à connaître Dieu. C'est là qu'ils ont su qu'il s'appelle Je suis. C'est là qu'ils ont su qu'il est le Dieu qui peut faire ce qu'il veut. Ouvrir la mer, faire sortir de l'eau des rochers. Ils ont vu toutes les démonstrations de force possible de Dieu. C'est dans le désert que vous allez découvrir qui est Dieu. Quand vous donnez votre vie à Jésus là, vous ne savez pas qui est Dieu. Vous entendez parler de Dieu, 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 comme tout le monde. Mais vous ne connaissez pas Dieu. On ne connaît pas quelqu'un parce qu'on vous en a parlé. On connaît quelqu'un parce qu'on l'a pratiqué. D'accord? On peut vous parler n'importe comment de la femme que vous allez épouser ou de l'homme que vous allez épouser. Vous ne pouvez pas le connaître jusqu'à ce que vous ayez vécu avec lui. On est d'accord? Le moment où on commence à vivre avec Dieu, là, c'est le désert. Je le rappelle, il a dit hier, je vous conduirai dans le désert pour parler à votre cœur. Quand Dieu veut vous parler, il vous éloigne du monde. Et il vous met quelque part où lui et vous, vous avez rendez-vous. Il va vous travailler, comme dans un camp militaire. Il va permettre que vous ayez des problèmes. Il va voir comment vous réagissez. Et suite à votre réaction, il va vous dire, non, c'est pas comme ça. La prochaine fois, je veux que tu réagisses comme ça. Apprends telle leçon. C'est comme ça qu'on éduque un enfant. Quand un enfant naît, qui le met pour dire, bon, toi, c'est toi. Maintenant, tu as 2 ans. Dans la vie, dans la vie, dans la vie. Et puis, on lui donne 10 heures de cours sur le comportement dans la vie. En espérant qu'il va apprendre que désormais, il se comportera bien. Est-ce que c'est possible? C'est possible? Non! Un enfant grandit parce que vous lui foutez la paix. Mais chaque fois que dans la vie, il fait quelque chose de bon, vous le félicitez. Vous le récompensez. Il fait quelque chose de mauvais. Soit au début, vous lui dites, c'est pas bon. Vous lui apprenez la leçon. 2 fois, 3 fois, vous appliquez une sanction pour qu'il comprenne. C'est comme ça que progressivement, vous formatez l'enfant et grandit. Le désert, c'est l'endroit où Dieu nous éduque. Dans le désert, ils ont eu soif. La première étape, Dieu leur montre ou leur fait apparaître un étang d'eau. Ils courent, ils arrivent tellement, ils avaient soif. Ils mettent la bouche dans l'eau pour boire, c'est de l'eau amère. Complètement amère. Ils ont commencé à me dire, voilà Moïse, tu n'es pas sérieux. Tu nous as sortis d'Égypte pour venir nous faire mourir de faim ici ou de soif ici. En plus, l'eau est amère. Et une chose qui m'a impressionné dans toute l'histoire, c'est que chaque fois que le peuple se plaint, chaque fois que les gens commencent à se révolter, Moïse ne fait qu'une chose. Il dit, attendez, il va parler à Dieu. Toujours, il n'a jamais rien fait d'autre. Il n'a jamais dit, bon, hey, quelle stratégie nous allons trouver maintenant? Bon, on va augmenter ci, on va développer ça. Non. Dès que ça le dépasse, il dit, attendez, Seigneur, franchement, je suis dépassé. Je fais quoi? Toutes les fois et chaque fois, la seule chose que Moïse trouvait à faire, c'est de retourner voir Dieu. C'est une des grandes leçons du désert. Vous ne pouvez rien par vos forces. Vous ne pouvez rien par votre intelligence. Vous ne pouvez rien par vos stratégies. Vous ne pouvez rien. Mais Dieu peut tout. Les problèmes qui se présentent ne sont pas des problèmes. C'est des situations qui vous obligent à prendre la clé de Dieu. Ce qui se passe dans la vie, c'est qu'il y a des choses que vous pouvez ouvrir vous-même, sans demander l'avis de personne. Généralement, ça, c'est les choses de Satan. Mais les bonnes choses là, Dieu en garde les clés. Et il dit, j'ai la clé, et n'oublie pas petit. Si tu en as besoin, appelle-moi. Vous arrivez devant la chose. Vous méprisez tellement Dieu. Vous considérez tellement que, bon, Dieu, c'est le dernier recours. C'est quand on n'a rien à faire. C'est quand on est idiot qu'on appelle Dieu. Que vous essayez toutes vos clés humaines pour entrer. La porte ne s'ouvre pas. Vous commencez à pleurer. Je dis, mais petit, pourquoi tu pleures? Je t'avais dit que j'ai la clé. Tiens, vous ouvrez, c'est bon. Il espère que vous avez compris. Prochaine porte, vous essayez encore toutes vos clés. Ça ne marche pas. Vous commencez encore à pleurer. Oh, Seigneur, tu vas comprendre ça quand? Je t'ai dit que c'est moi qui ai la clé. Prends. Mais au bout de 2, 3 fois, c'est ce qui lui est arrivé. Si chaque fois vous pleurez, au lieu, quand vous êtes pas fermé, on dit, ah, Dieu avait déjà dit que c'est lui qui a les clés. Ne vous fatiguez pas, on a sans que ne cherchez pas, il n'y a rien dedans. Seigneur, comme tu as dit d'habitude, là, on est encore là, envoie la clé. Ne pas perdre de temps. Et voilà, petit, tu as compris, tiens. Et vous avancez comme notre conte de fées, en ouvrant les portes les unes après les autres, sans aucun effort. Paul l'a dit, c'est clair. Nul ne peut être sauvé par ses œuvres. Nous ne pouvons être sauvés que par la grâce. C'est comme si votre enfant a 2 ans, et c'est derrière ça qu'ils font. Vous allez voir un enfant, il est devant un truc, il veut par exemple essayer de fermer cette bouteille maintenant. Il n'y arrive pas, il essaie d'ajuster le genou, il n'arrive pas, mais il force, il s'énerve. Alors que s'il fait comme ça, n'importe quel adulte pense à lui faire ça 2 minutes. Mais comment l'enfant fait? Il veut à tout prix, c'est bon, ça lui permet d'apprendre, parce que là nous sommes en tombe. Mais il essaie, il force, il se crée des problèmes, il pleure, tout ça. Alors que dans le fond, ce qui lui pose un problème n'est pas un problème. Il suffit qu'il donne ça à son papa ou à sa maman, en 2 minutes, on lui arrive le problème. Il essaie de prendre quelque chose sur la moi et il passe sa journée à pleurer parce qu'il ne peut pas prendre. Quand la solution est aussi simple, d'aller maman, maman, et la maman te pense en 2 minutes. Mais vous avez vu, cette pulsion, cet instinct qui fait que tout enfant ne pense à aller demander à papa et à maman que quand il a tout essayé en vain, cette pulsion, nous l'avons en adulte aussi. Si c'est que c'est les hommes, ce n'est pas grave. Mais quand c'est de Dieu qu'il s'agit, ce n'est pas la peine de faire ça, à pleurer, à se faire casser, à subir des coups, à se faire briser. Quand il est là, en attendant qu'il dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Vous dites « Je ne t'invoquerai jamais. Je vais d'abord essayer par moi-même. » Pourquoi vous attendez d'être complètement détruit par les problèmes avant de vous rappeler qu'il y a quelqu'un qui ne vous prend pas 25 francs pour vous le régler? C'est ça l'histoire du désert. À chaque étape, dans le cas de l'eau amère, Dès que Moïse est parti, il dit, Seigneur, il y a de l'eau à mer, ils sont en train de me fatiguer, c'est pas compliqué. Prends-moi ce morceau de bois là, jette-le dans l'eau. Moïse prend le morceau de bois, il le jette dans l'eau, l'eau devient douce, il le boit. Que représentait ce morceau de bois? Ça représentait la croix de Jésus. Toutes nos douleurs, tous nos problèmes. Le monde est un vaste étang d'eau. Les gens ont l'impression que c'est de l'eau, de loin ça brille. Ah, il y a de l'eau, il y a de l'eau. On met la bouche dedans, c'est amer, il n'y a que des soucis. Regardez bien votre vie. Tout ce qui vous paraît beau, quand vous mettez la bouche dedans, c'est amer. Les femmes, vous mettez la bouche dedans. Il vient de nous tout à l'heure, c'est très amer. Les garçons, on met la bouche dedans, c'est très amer. L'argent, on met la bouche dedans, c'est très amer. La santé, on met la bouche dedans, quoique c'est facile, c'est très amer. La vie, le pouvoir, demandez aux hommes politiques, mon pauvre président, aujourd'hui, c'est sûr que si vous demandez, il va vous dire c'est très amer. Tout ce que l'homme veut là, c'est amer. Il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qui transforme l'eau amère en eau douce? La croix. Au lieu de pleurer parce que l'eau est amère, quand la croix s'en mêle, l'eau amère devient de l'eau douce. Mais au lieu de dire, voilà, il n'est pas là Dieu, il nous a sortis du désert, de l'Égypte pour venir mourir de faim, il dit c'est amer. C'est quoi le problème? Dites-moi que c'est amer et voici, je n'ai rien fait. On dit c'est amer, il dit mettez un bois dedans. Le bois transforme l'eau en eau douce. Mais ça n'a pas empêché que chaque fois qu'ils ont eu soif, chaque fois ils se sont énervés, au lieu de demander gentiment à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez aller loin dans la vie, comprenez très vite cette leçon. Les problèmes ne sont pas une occasion de pleurer. C'est une occasion de rappeler que votre capacité s'arrête. Comme on dit, la capacité de Dieu commence là où s'arrête la vôtre. Chaque fois que vous êtes coincé, il n'y a aucun problème. Le fait que vous soyez coincé, c'est le signal de Dieu que vous avez atteint la limite où. Maintenant, c'est de lui que ça dépend. Ne vous fatiguez plus, allez dormir. C'est ça que ça veut dire. Jésus dit, déchargez-vous de vous sur moi. Déposez vos problèmes à vos pieds et revêtez-vous de ma croix. Tu marches, tu fais le mal, tu n'as quelque part, tu ne peux plus avancer. Au lieu de pleurer, rappelle-toi que dans ta vie, là où tu ne peux plus avancer, c'est là où Dieu commence à avancer. Il veut dire, décharge-toi ici. C'est fini, tu étais à vélo. Ici, là, les vélos ne passent pas. On est maintenant au niveau de l'eau. C'est le bateau. Moi, j'ai bateau. Quelqu'un te dit, j'ai bateau, tu as problème de bateau, appelle-moi. Tu arrives devant l'eau, tu commences à pleurer parce que tu as un vélo. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tout ce que vous appelez problème, c'est quoi? C'est la chose qui vous dépasse. Ou bien, ça vous dépasse, ça ne dépasse pas Dieu. C'est vous qui choisissez de garder ça pour vous au lieu de balancer ça à Dieu. Lisez bien Exode, vous verrez. C'est l'histoire de gens auxquels Dieu n'avait pas de dire, quand ça vous dépasse, appelez-moi. Et qui toutes les fois pleurent, essaient, jonglent, maudissent Dieu parce que ça les dépasse au lieu d'avoir l'humilité de l'appeler. Voilà l'histoire du désert. Tellement que Dieu en a eu marre, il a commencé à les châtier, à les brûler, à leur envoyer des serpents, à les frapper de lèpre. Il a tout fait, ils n'ont pas compris. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas que Dieu ne demande rien d'autre que de lui dire maintenant je suis dépassé, viens t'en occuper. Quand vous regardez bien, série d'épreuves, chaque fois, ils essaient, ça ne marche pas, ils pleurent, ils se plaignent, ils le maudissent, ils disent que rien ne va bien, ils disent que les temps sont durs, ils disent que la vie est trop dure, au lieu de dire Seigneur, on fait quoi? Je veux que vous compreniez bien parce que même moi, il n'y a pas si longtemps que ça, quand je lisais ce livre-là, je disais, mais pourquoi les Israélites étaient bêtes comme ça? Ils sont quand même bêtes. Jusqu'à ce que Dieu m'explique que nous sommes tous bêtes, nous faisons exactement comme jusqu'aujourd'hui. Et on est même plus bêtes qu'eux. On se dit, mais quand même, le gars qui l'a donné trois fois, pourquoi ils ont encore peur? Mais le gars qui vous a sauvé tous les jours, vous avez peur? Parce que Satan fait que vous oubliez au fur et à mesure que Dieu fait pour vous. Aucun de vous ne peut s'asseoir et écrire en quelques minutes maintenant ce que Dieu a fait pour lui le dernier mois. Or, si vous commencez à écrire 100 pages, je ne vais pas suffire. Et quand vous oubliez au fur et à mesure ce qu'il fait, quand la même situation se présente, vous ne réalisez même pas que ça, là, c'est ce qu'il a l'habitude de faire tous les jours. Tu es en bonne santé aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es fort, c'est parce qu'il a voulu. Pourquoi si demain tu es en mauvaise santé, tu ne peux pas lui dire, toi qui as fait que j'ai toujours été en bonne santé là, tu es où? Il faut faire la même chose. En s'énervant demain, c'est comme si tu oubliais que c'est lui qui a fait hier. Pourquoi tu crois que demain ne peut pas faire alors que c'est lui qui a fait hier et qui fait depuis que tu es né? On dit que ton cœur est foutu, tu vas mourir. Tu oublies que c'est lui qui a fabriqué ton cœur. Même s'il faut fabriquer un nouveau cœur, ça le dépasse. Pourquoi lui qui a fabriqué ton cœur, quand tu dis que ton cœur est foutu, tu commences à pleurer comme s'il n'y a pas de solution, alors que c'est lui qui a fabriqué le cœur. Celui qui a fabriqué quelque chose peut être incapable de le réparer ou d'en fabriquer un autre. Pourquoi tu crois que quand on dit que c'est problème de cœur, c'est fini, c'est la mort? Alors que c'est lui qui a fabriqué les cœurs. Dans le fond, on voit que c'est bête. Mais c'est comme ça que nous faisons tous. Et c'est ça qui nous détruit. Dieu n'arrête pas de nous laisser prendre des coups, de nous frapper pour que nous finissions par comprendre qu'il faut l'invoquer. N'ayez pas peur de fatiguer Dieu. Dieu veut être fatigué. Vous voyez, Jacob, il s'accroche à lui, il dit, je ne te lâche pas tant que tu ne m'as pas béni. Et Dieu le félicite à la fin. Dieu veut des gens qui s'accrochent à lui. Des gens qui ne se fatiguent plus, qui surfent sur sa puissance. L'autre chose que le désert a apporté, le désert était le moment de structuration. C'est dans le désert qu'ils ont appris la loi. C'est dans le désert qu'ils ont reçu les 10 commandements. C'est dans le désert que vous allez découvrir qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il y a des choses qu'on va vous enseigner. Il y a des choses que vous allez expérimenter. Vous ferez certaines choses. la manière dont Dieu va réagir va vous apprendre que cela ne va pas parler pour Dieu. Vous allez faire d'autres choses, il va vous bénir. Par exemple, chaque fois que vous allez arriver à avoir la victoire sur un grand péché, ou sur quelque chose, ou sur une idole, je rappelle, nous l'avons vu hier, les idoles, ce n'est pas seulement les talismans et tout ça. Si quelqu'un a tout ça, rien n'a qu'à jeter rapidement. Ça, c'est la malédiction même. C'est comme Achan. Tant que vous avez des choses comme ça en vous, vous n'irez nulle part. C'est exactement comme Pharaon. Quand il a voulu libérer les Israélites, à un moment, il a dit, partez, mais laissez telle chose. Satan vous dit à un moment, vous quittez le monde. Bon, garde-moi la bague là. Garde le talisman là. Garde la médaille miraculeuse là. Bon, garde au moins ta réunion de la franc-maçonnerie là. Garde au moins ton alliance où vous allez boire, je ne sais trop quoi, une fois par mois. Pour... Bref, il vous dira toujours, tu veux être chrétien, il n'y a pas de problème. Mais au moins telle chose là, bon, c'est pas grave, il faut garder ça. Pharaon m'a dit, partez si vous voulez, mais laissez-moi au bétail. Ils disent non, ils disent, bon, ok, partez, mais laissez-moi si. Mais laissez-moi ça. Dieu veut que vous ne concédiez rien à Satan. Rien. Vous avez vu quand il leur a dit de prendre Jéricho, il dit, vous allez là-bas. Vous me détruisez tout, jusqu'aux enfants, aux bébés. Les femmes enceintes, tuez-moi tout. Dieu veut que quand on arrive sur le territoire de Satan, on ravage tout, on ne laisse rien. On ne doit pas accepter une mauvaise pensée. Pas une jalousie, pas un doute, pas un manque de foi. Vous devez être en guerre totale et absolue contre tout ce qui vient de Satan. Si vous laissez, la Bible dit que, si vous laissez un seul germe de Satan dans votre vie, il va grandir, il va vous persécuter, il va vous écraser. Et c'est comme ça arrive aux gens. Grand pasteur, beaucoup d'onction, tout le monde l'apprécie. Mais il a gardé dans son cœur un peu de germe, par exemple d'adultère. Il ne fait plus ça souvent. Mais quand il voit les femmes, il les contemple quand même. Il regarde les films porno. Il fantasme sur les femmes des gens. C'est un petit quelque chose, il a déjà tout vaincu. Mais c'est là, tapis à la porte. Ça grandit, ça grandit, ça grandit. Un jour, ça va venir. Pasteur, maman, il m'a abandonné. Elle va lui sauter au cou. Elle va commencer à pleurer. T'as ce chagrin pour la réconforter, il va faire comme ça, c'est fini. Il fait comme ça, là, c'est fini. Satan applique la dose, il va être détruit. Parce que Satan, en le faisant ça, va faire en sorte qu'on va même le supprendre. Satan qui a organisé ça, va organiser qu'on vient le supprendre. Toute l'église va être au courant. Ah, vous avez appris, le pasteur, ce gars-là est brisé. Son ministère est brisé. Tout ce qu'il avait écouté, personne ne peut plus faire confiance à Dieu. Pied d'achoppement. Satan le déchiquette. Pourquoi? Il a vaincu tout dans le péché. Il a laissé dans sa pensée un petit germe qui restait de Satan. C'est pour ça que je lui dis, celui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère. Parce que les pensées sont des semences. Quand vous semez une pensée, elle deviendra une parole. Une parole deviendra forcément une action. Ce n'est pas possible de mettre du maïs en terre et de prier pour que ça ne bouge jamais. Là où vous avez laissé tomber du maïs, il faut revenir voir. C'est sûr que... et puis le maïs va apparaître. Vous ne pouvez pas semer une pensée dans votre vie et prier pour que ça ne germe pas. Il faut détruire jusqu'au plus petit germe de Satan. Beaucoup de gens ne font pas une victoire. Un massacre total du péché. Pourquoi Dieu a déchiré la royauté sur Saül? Parce que vous allez voir, il y a des fois quand Dieu envoie les gens en guerre, il donne toujours la consigne, ne laissez rien survivre. Parce que c'est des guerres prophétiques contre le mal. Saül a perdu le pouvoir simplement parce que Dieu a dit de tout détruire, il n'a pas tout détruit. On peut se dire, mais c'est encore criminel de ne pas tuer tout le monde. Mais le tout le monde ici représente le démon, le diable, les péchés, les différentes formes du mal. Dieu ne veut pas qu'un chrétien aille en guerre contre le mal dans sa vie en tolérant ou en laissant des concessions ou en faisant des alliances avec quoi que ce soit qui vient de Satan. Tout doit être vaincu. S'il vous faut toute une vie pour le faire, continuez la guerre, mais n'arrêtez jamais la guerre tant que vous n'êtes pas vaincu jusqu'au dernier bastion de Satan. Sinon, le seul bastion que vous allez laisser. Vous allez voir dans les films karaté, les films chinois là, vous allez massacrer une famille. Vous laissez un seul enfant, c'était le bébé qui était dans le berceau. Dans 20 ans, il grandira, il deviendra un grand karatéka, il viendra vous tuer. Ou bien, donc, quand un chef bandit veut éliminer, il tue jusqu'au bébé qui est dans le ventre. Et s'il apprend qu'il y a quelqu'un qui était peut-être en train d'aller tuer dans le pays, il va aller le chercher là pour le tuer. Parce que tant qu'il reste un seul vivant, il n'est pas en sécurité. Si vous détruisez le péché en laissant certains péchés, certaines compromissions tapis dans l'ombre, c'est eux qui vont vous finir un jour quand vous pensez que vous êtes déjà dans la victoire. Le dévers nous apprend tout cela. Le dévers, je l'ai dit, c'est la loi, les 10 commandements. Ça, c'est la base. Mais Dieu ne leur a pas appris que les 10 commandements. Il leur a appris à être patient. Il leur a appris à être endurant. Il leur a appris à marcher au rythme de Dieu. Ce que vous oubliez, c'est que c'est un peuple très nombreux. Ce n'est pas 10 personnes qui marchent. Hein. C'est comme des millions. C'est comme si tous les Bénois se mettaient à marcher pour aller quelque part. D'abord, ce n'est pas une mince affaire. Et chaque soir, il faut s'arrêter quelque part, déployer les tentes. Et la Bible dit que la nuit, il y avait une colonne de feu de l'Éternel qui se mettait devant eux pour les guider et pour les éclairer. Le jour, c'était une nuée. C'est le Seigneur qui les éclairait lui-même. Mais mieux, c'est le Seigneur qui déterminait la marche. Il y a des jours, le Seigneur, parce qu'il y avait la tente et la nuée au-dessus. Dieu dit que si la nuée ne bouge pas, personne ne bouge. Donc vous êtes là, vous marchez, vous couchez ce soir,
Vous verrez demain, vous regardez, si Dieu va dire de bouger. Il ne dit pas de bouger un jour, deux jours, trois jours, un mois, un an, deux ans, vous ne bougez pas. Le subitement matin dit, ok, on bouge. Tout le monde déploie, tout le monde démontre les tentes. C'est comme si on démontait tout le Bénin et on se met à marcher. Vous marchez, je vous l'ai dit de vous arrêter. C'est éprouvant, vous ne réalisez pas ce que ça veut dire. Mais moi, j'en fais l'expérience. Aujourd'hui, j'ai bien compris ça. Vous êtes dans votre vie. Vous savez bien où Dieu vous envoie. Hein. Vous voyez bien où il vous envoie. Mais des fois, vous êtes ténèbres. Vous avez l'impression d'être un cheval en laisse. C'est comme si vous montrez le truc. Vous avez envie de courir et puis le Seigneur fait comme ça. Non, petit, calme-toi. C'est pas encore. Ça vous énerve. Calme-toi. Parfois, c'est simplement pour vous apprendre la patience. Parfois, c'est qu'il a un plan. Là où vous allez, quelque chose doit se passer là-bas qui ne s'est pas encore passé. Il faut attendre que ce soit prêt. Dieu est le maître des temps des circonstances. Vous êtes là, votre vie est banale, rien ne s'y passe. Vous avez l'impression que c'est une vie ordinaire. Et subitement, un événement se passe, vous commencez à courir. Pendant deux mois, trois, vous allez courir, vous allez franchir des étapes rapidement. Vous allez penser que c'est pour toujours. Subitement, tout se calme. Plus rien ne se passe. Et il faudra attendre. Vous ne pouvez pas forcer. Si vous commencez à partir, quand le Seigneur dit ne pas partir, vous serez maudit, vous allez avoir des problèmes. Si vous restez, quand lui dit de partir, vous allez avoir des problèmes. Vous ne pouvez que fonctionner comme un mouton. Là, il a dit qu'il est le berger. Ce n'est pas par hasard. Il dit bougez, vous bougez. Il dit s'arrêter, vous arrêtez. Et ça, c'est très pénible. On apprend là la discipline. Moi, ça a été l'une de mes plus grandes difficultés avec Dieu. Cette capacité à tempérer. Parce que moi, je suis quelqu'un de très fougueux. Quand je démarre quelque chose, c'est à la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, j'ai appris à fonctionner avec Dieu. Je ne suis pas devenu nonchalant, mais je guette Dieu. Quand il dit de dormir, je dors, mais je me calme, je patiente. Quand il dit le top là, je vais très très vite, avant qu'il m'arrête encore. Quand il m'arrête, bon, je m'arrête. Mais j'ai compris, ça ne sert à rien. Au début, quand il vous dit de vous arrêter, vous forcez pour moi un peu. Vous êtes découvert, il n'y a rien dedans. Quand il dit stop, tu continues, il n'y a rien dedans. Ce n'est pas la peine de fatiguer. Il a dit stop, c'est stop. Tout centimètre que tu fais de plus, tu perds ton tête, tu auras des problèmes. Comment il dit stop? Il te donne par exemple un projet. Il te faut 1 million. Tu trouves 100 000, tu commences à courir. Si tu ne trouves pas les 200 000 qui restent, tu t'arrêtes, non? Quand le Seigneur veut battre vite, il t'arrête par les moyens. Et c'est pour ça que Dieu dit que là où il y a la vision, il y a les provisions. Si Dieu veut que vous fassiez quelque chose, il vous en donnera les moyens. C'est aussi l'une des grandes leçons que moi j'ai apprises dans le désert. Quand Dieu ne vous donne pas les moyens de quelque chose, c'est qu'il ne veut pas que vous le fassiez ou ce n'est pas pour vous le moyen de le faire. Dieu ne peut pas vouloir que tu ailles faire quelque chose et il sait que tu veux lui obéir et au moment de le faire, les moyens ne sont pas là. Tu lui demandes, il ne veut pas. C'est faux, il ne veut pas. Quand Dieu veut faire quelque chose, il sait se débrouiller pour qu'on ait moyen de le faire. Il se débrouillera. Vous n'avez pas besoin de savoir comment il se débrouillera. J'ai atteint le point où l'absence de moyens pour faire quelque chose, même si j'estime que c'est la meilleure chose pour Dieu, si je n'ai pas les moyens de le faire, je ne me fatigue même pas. Ça veut dire qu'il ne veut pas le faire. J'ai découvert qu'écoutez, j'ai déjà mes problèmes. On a tant de problèmes. Pourquoi nous allons nous fatiguer encore avec les problèmes de Dieu? Je veux faire quelque chose pour Dieu. Dieu n'envoie pas les moyens pour ça. Pourquoi je vais me stresser pour Dieu? Pourquoi c'est vraiment quelqu'un pour qui on peut se faire des soucis à sa place? Mais je vous dis ça aujourd'hui, mais moi je me suis déjà fait des soucis à la place de Dieu. Quand vous voyez par exemple ce que ce club coûte, certains trucs qu'on achète matériel, des fois je dis, mais comment on va faire tout ça? Et puis je ne suis pas me dire, mais elle dit, ah, tu es con. Comment tu fais des inquiétudes pour Dieu? Si tout ça là doit s'arrêter, c'est le problème de qui? En réalité, si je faisais ça pour de l'argent, ce serait mon problème parce que je vivrais ce que je gagne dedans. Mais ici, concrètement, je ne gagne rien. Donc, si tout ça là s'arrête, à part de me faire des économies, qu'est-ce que je perds? On pourrait dire que je perds le ciel. Mais s'il arrête, ce n'est pas que je perds le ciel, c'est lui qui a arrêté. Donc, si demain, Dieu me dit ferme le club et je suis celui qui a dit moi, je fermerai, parce que je ne peux pas être, je ne peux pas l'aimer plus que lui-même. Si je fais quelque chose pour lui, il dit de fermer. Même si je pense que c'est bon, je vais fermer. C'est ça que je sacrifie son Isaac. Nous avons dit non, c'est pas possible, c'est un ministère, c'est pour Dieu, jamais je ne fermerai. Si Dieu qui t'a dit d'ouvrir, dit de fermer, ferme. Tu peux pas être plus malin que Dieu et être plus soucieux de Dieu que Dieu lui-même. Pourquoi? Dieu peut par exemple dire bon, pour tester ton niveau de foi et ton niveau de discipline. Parce que Dieu aime les gens disciplinés. Il aime les gens qui, au doigt et à l'œil, lui obéissent. Il y a des choses qu'il fait simplement pour tester votre discipline. Il peut dire ferme. Si tu es orgueilleux, tu vas dire hé, je vais fermer maintenant. Les gens vont dire voilà, cette histoire qui dit bien créer, il a fini, c'est fini, derrière, non, c'était du vent. Tu penses à tout ça, l'orgueil. Et Satan va rester là. Et je ne vais pas fermer. Hein. Il faut que je vais t'envoyer là, s'il ferme. Il va commencer à t'empêcher d'avoir l'argent pour le loyer. Les choses vont commencer à se gâter. Personne ne viendra plus. Là, vous voyez, il y a des gens qui sont là. Dieu ne veut plus qu'ils aient une église. Il a dit ferme. Bon, pour ne pas avoir la honte, ils sont pasteurs, il n'a pas d'église, il va faire quoi? Il refuse de fermer. Et les églises deviennent du n'importe quoi, ça devient des repères de vipères et de diables au lieu d'être des églises. Quand Dieu dit de fermer, on ferme. Regardez même Paul, il arrive quelque part, il veut aller évangéliser, cet esprit dit, tu ne bouges pas. Prends le chemin. C'est son évangélisation, lui laisse cet endroit-là, il va ailleurs. Parce que Dieu avait un autre plan pour lui ailleurs. Mais si vous obéissez à Dieu, vous laissez l'orgueil de côté. Vous obéissez. Je peux fermer par exemple le club. Et le plan de quelqu'un, c'est que. Là, je dis, il a fermé. Non, c'était trop bon. C'est là où c'est comme ça, Benoît. Hein. Là, tout le monde va commencer à t'appeler. Mais c'était trop important. Moi, j'ai tel témoignage. Le club a fait ceci pour moi. J'avais écouté tel. Bon, prends 10 millions pour t'aider. Si c'est ça ton problème. Prends 100 millions pour t'aider. Et subitement, il va faire, tu vas recevoir 1 milliard. Il dit, maintenant, ouf. Des choses comme ça me sont déjà arrivées. Là, vous. Vous-même, vous sentez que c'est Dieu. C'est comme ça qu'il travaille. Parfois, quand tu penses que tout est fini, il te demande de faire quelque chose qui te paraît bête. Fais-le bêtement parce qu'il est plus intelligent que toi. Quand tu vois comment il retourne les choses pour en faire des victoires, toi-même, tu es surpris. Je vous donne par exemple le cas de comment moi j'ai créé Global Immobilier. C'est pareil. J'avais besoin d'argent, j'avais besoin de 5 millions. J'ai demandé un prêt à la BOA. Mon dossier était parfait, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour avoir mon prêt. Curieusement, ils ne me l'ont pas accordé. Si c'était avant, j'allais pleurer, j'allais m'énerver, j'allais forcer. Mais je venais d'apprendre de Dieu. Et c'est tellement, c'était une épreuve qui me donnait ce que Dieu veut, il le fait. Si Dieu ne permet pas quelque chose, il y a une seule chose à faire, le louer pour ça. J'ai commencé à remercier Dieu. Merci Seigneur de ne pas avoir le prêt. Tout ce que tu fais, bon. J'étais en train de le remercier de ça quand une idée m'est arrivée. L'idée me dit, mais il te reste 1 hectare. Ah, Kassato, vends-le. Le diable me dit, tu ne peux pas le vendre. Moi, tu vas vendre ton dernier hectare. Tu n'auras plus rien. L'autre me dit, mais qui t'a donné ça? Celui qui t'a donné est capable de t'en redonner. Vends-le. J'hésitais. Mais j'ai la condition de vendre. J'avais et j'ai toujours du mailing électronique. Je me mets sur mon ordinateur 2 minutes. Je lui dis une annonce. Non, d'abord, j'ai appelé les gens à Kassato. J'ai dit, j'ai 1 hectare que j'ai acheté chez vous. Je l'avais acheté à 3 millions 2 ans ou 3 ans avant. Ça coûte combien les parcelles dans la zone? D'abord, les hectares. On me dit que l'hectare coûtait entre 7 et 8 millions. Donc, déjà presque le triple du prix. Parfait. Le Saint-Esprit me dit, demande-leur combien coûte le terrain. Je dis, combien coûte le terrain? On me dit 1 million. C'est parfait. J'appelle un géomètre. Il y a combien de terrain dans 1 hectare? On me dit à peu près 20. Je fais le calcul. Donc, mon hectare vaut à peu près 20 millions. Je fais une annonce rapidement des terrains à vendre à Kassato, 500 mètres carrés, 1 million la parcelle. Ça n'a pas fait une journée, une dame me répond, je suis intéressé à tout prendre. Au lieu de 20 millions, on a négocié le prix à 13 millions. Le lendemain, m'a payé les 13 millions. En 24 heures, j'ai vendu un terrain que j'avais acheté 2 ans avant à 3 millions. Je l'ai vendu à 13 millions 5 cash. La dame, je connais, qui travaille à la BCE, je peux la montrer à qui veut. 13 millions 5 cash. Une multiplication fois 5 en 24 heures. Et subitement, le truc me dit, mais tu vois, tu as tout pour faire de l'immobilier. À l'époque, je n'étais qu'un formateur, consultant. L'immobilier, ce n'est pas mon métier. Global n'a jamais fait de l'immobilier. Tu me dis, mais pourquoi tu ne fais pas l'immobilier? Je dis, mais comment l'immobilier? Je dis, oui. L'immobilier, c'est la crédibilité. Regarde, je t'ai donné la crédibilité. L'immobilier, c'est un nom, tu en as. L'immobilier, c'est de la communication, tu en as. C'est des réseaux, tu en as. C'est la confiance, tu en as. C'est la capacité d'organiser les choses. Tu es un expert en management. C'est la capacité de régler des problèmes difficiles. C'est ça ta spécialité. Regarde bien, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut pour réussir l'immobilier que tu n'as pas? Et il y a bon, ok, on va créer un département immobilier. Ça ne fait pas 3 ans aujourd'hui. L'immobilier fait 99% du chiffre d'affaires de Global. La destinée d'une société a changé parce que, après avoir perdu un prêt, j'ai loué Dieu. Et Dieu a transformé le prêt refusé de 5 millions en ce qui a dû nous rapporter déjà 1 milliard aujourd'hui en 3 ans. J'aurais pu me plaindre, commencer à pleurer et essayer d'aller corrompre les gens pour forcer le prêt. J'allais prendre le prêt, je n'allais pas pouvoir le rembourser, ça allait me créer des problèmes, je n'en ferai pas l'aujourd'hui. L'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Ce n'est pas la peine de se plaindre, de pleurer. Si quelque chose vous arrive, c'est parce que Dieu l'a permis. Il faut le remercier. Quand vous commencez à le remercier pour ce qui arrive, il vous donne une idée. L'idée là-bas vous lancer. Vous allez avoir l'impression. Vous allez dire, mais comment je n'y ai pas pensé avant? Vous ne pouvez pas y penser, c'est Dieu qui pense. C'est des choses comme ça qu'on expérimente dans le désert. Dans le désert, les gens défient l'autorité constamment. Ils ont chaque fois défié l'autorité de Moïse. Chaque fois, Dieu a frappé pour rétablir l'autorité. Pour rappeler qu'on ne discute pas avec Dieu. Qu'on ne s'énerve pas contre Dieu. Qu'on ne doute pas de Dieu. L'autre chose que j'ai appris, c'est que Dieu ne vous permet d'aller à une autre étape que quand vous êtes prêt. On l'a vu hier. C'était des peureux au début. Dieu savait que s'ils allaient au port de Jéricho, quand ils vont voir ce qui se passe là-bas, ils vont fuir. Dieu les a gardés dans le désert 2 ans. Après 2 ans, il a voulu voir s'ils étaient déjà capables. Il leur a demandé d'envoyer un groupe d'espions au niveau de la terre promise pour aller voir. Parce que Dieu est un stratège. Oui, il va vous donner la terre, mais il vous demande d'aller espionner, d'aller faire de la reconnaissance, d'avoir un peu de vision. Il faut planifier avec Dieu aussi. Donc Dieu les envoie pour explorer la terre promise, afin de déterminer comment ils vont l'attaquer. Ils vont là-bas, ils reviennent, ils disent, c'est vrai que c'est un pays merveilleux, il y a tout là-bas, il y a le lait, il y a le miel, il y a tout ce que nous pouvons. Mais franchement, que personne ne raconte des victoires. Dieu ne nous aime pas du tout. S'il nous aimait, il n'allait jamais nous envoyer là-bas. Mais vous allez voir, les gars là-bas, c'est des géants, ils font 10 fois notre taille. À côté de nous, ressemblons à des fourmis. Ils ont des gros régimes de bananes, tout est merveilleux dans ce pays, mais c'est des géants, ils vont nous massacrer. Leur ville est protégée par des murs qui ont 10 mètres d'épaisseur et 15 mètres de hauteur. Comment nous allons les affronter? Ce n'est pas possible. Franchement, Dieu là, si c'est pour nous envoyer vers des gens comme ça, il aurait dû nous laisser dans le désert. Ils ont recommencé encore à se plaindre. Il n'y avait que 2 personnes, Josué et Caleb. Ils ont été dans la même mission. Hein? Ils ont vu la même chose. Josué et Caleb disent, c'est faux. Il y a des géants, c'est vrai. Mais si c'est Dieu qui dit d'y aller, allons-y. Ils étaient en train de discuter. Ils ont commencé encore à se rebeller contre Moïse quand Dieu est intervenu. Bon, maintenant, ça suffit. Vous tous qui vous êtes plaints là, vous ne rentrerez jamais à Canaan. Fini. Vous allez tous mourir ici. C'est vos enfants, ceux qui n'ont aujourd'hui pas 20 ans, qui après que vous soyez tous morts jusqu'au dernier dans le désert, donc une nouvelle génération qui va aller là-bas. Mais vous là, jamais vous ne verrez plus ce bonheur-là, jusqu'à mourir. Parce que moi, Dieu, je vous ai dit d'aller là-bas, vous avez eu le culot de me dire que je suis bête de vous dire d'aller là-bas. Eh bien, vous n'irez jamais là-bas. Josué Caleb, toi, tu iras. Et pendant 40 ans, ils sont restés là, souffrir, à mourir un à un. C'est quand ils sont tous morts que Dieu a dit maintenant à leurs enfants, allez, on se lève maintenant, vous allez rentrer. Beaucoup de gens meurent dans la pauvreté en étant chrétiens sans porter aucun fruit. Parce que Dieu passe son temps à dire avance vers le bonheur. C'est trop beau pour être vrai. Moi, je viens d'une famille pauvre. Franchement, je vois, moi, je n'ai même pas été à l'école. Je n'ai même pas de diplôme. Les temps sont durs. Je ne connais personne. Je n'ai pas de capital. Je n'ai pas de relation. J'ai fait faillite. Comment Dieu peut dire ça? En tout cas, franchement, les histoires-là, c'est bien pour monsieur Gibi, lui, il a la chance. Son papa est riche, son papa était à la loterie, il a l'argent. Dernier zéro comme ça. Dieu dit, ah bon? Moi, je te dis que tu as la tête et non la queue. Je te dis que tu ne manqueras de rien. Je te dis que je suis le maître de l'or et de l'argent. Et tu me dis que toi, tu es trop pauvre pour y être. Eh bien, meurs dans la pauvreté. On verra avec tes enfants. Voilà pourquoi plein de chrétiens sont pauvres en passant leur temps à l'église de dimanche. Parce que Dieu ne supplie personne d'aller à la terre promise. S'il vous a sorti d'Égypte, c'est forcément pour Jéricho. Mais si vous trouvez que vous n'êtes pas dit de Jéricho, il ne vous forcera pas. Ah, moi, je suis trop vieux. J'ai déjà 40 ans. Je ne peux plus me marier. Je ne peux plus avoir d'enfants. Dans ma famille, personne ne reste marié. Vous commencez à lui raconter les raisons idiotes et imbéciles pour lesquelles, lui, Dieu, il n'est pas capable de vous bénir. Il dira qu'il vous en soit alors fait selon votre foi. Beaucoup de gens ne rentrent jamais à Canaan simplement parce qu'ils estiment que Dieu a dû se tromper en le leur promettant. Ils estiment que c'est impossible d'y aller. Ils estiment que les difficultés qui assurent le chemin de Canaan sont trop importantes pour que Dieu ose leur dire d'y aller. Parce que comme je l'ai dit, ils se regardent, ils se comparent aux difficultés au lieu de regarder les difficultés, de les comparer à Dieu. Le secret du courage pour affronter le succès, c'est de voir Dieu en train d'agir pour soi au lieu de se voir en train d'agir. Vous allez voir que quand les Josué ont finalement été au port de Jéricho, quand le combat s'approchait, la Bible nous révèle que quelqu'un s'est présenté, l'ange de l'Éternel, le chef des armées de l'Éternel, avec une épée à la main. Et ils lui ont demandé, mais tu es venu pour combattre pour qui? Et je ne suis pas venu pour combattre pour quelqu'un. Je suis venu prendre le commandement. C'est-à-dire, ce combat-là, ce n'est pas votre combat, c'est mon combat à moi. Calmez-vous, laissez-moi faire. Est-ce que les Josué ont combattu? Ils n'ont pas combattu. Dieu ne vous demande pas de combat. Vous n'avez aucun combat à faire. Quel combat vous voulez faire contre Satan? Qui vous êtes-vous pour combattre contre Satan? Si un homme pouvait combattre Satan, Dieu allait se fatiguer à envoyer son fils pour le combattre. Vous ne pouvez rien combattre. Les gens qui chicotent Satan, là, ils perdent le temps. Hein? Satan, on l'a déjà trop chicoté. Il n'a même pas de quoi vous le chicoter. Arrêtez de raconter des bêtises. Chicote Satan. Puis, quand on dit chicoter Satan, alors le stade est plein. On est en train de chicoter Satan. Alors que c'est eux que Satan chicote. Chicote Satan, chicote Satan. On invoque le feu sur Satan. Feu, feu, feu. Satan sait qu'il aura le feu, mais laissez chaque chose à son temps. Vous ne pouvez rien contre Satan. C'est ça la réalité. Jésus s'occupe personnellement de Satan. Il s'est déjà occupé de lui et il va finir le combat bientôt. Non, vous n'avez rien à faire dedans. On dit que le lion entend se battre avec l'éléphant et une fourmi dit qu'il veut participer au combat. Il ne faut pas être venu du combat, c'est pas votre problème. Ou bien, est-ce que le lion peut être en train de battre avec l'éléphant et la fourmi dit qu'il veut participer au combat? Ce n'est pas ton combat, il faut laisser les gens sérieux se battre entre eux. La vie est un combat Dieu-Satan. Vous n'avez rien à faire d'autre que de vous cacher derrière Dieu. Vous ne pouvez pas chercher à passer devant Dieu pour chicoter Satan, pour attacher Satan. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez qu'à vous cacher derrière Dieu. Et quand vous le voyez à Jéricho, Jéricho n'est pas tombé par le combat des Israélites. Tout ce que Dieu attendait d'eux, c'est d'avoir la foi d'aller là pour que lui démontre qui il est. Il ne va pas démontrer. Vous allez voir une chose aussi que je n'ai pas dit. Dieu ne rentre jamais en action sans que les hommes se soient mis en mouvement. Dieu ne rentre, notez-le bien. Dieu ne rentre jamais en action sans que les hommes ne se soient mis en mouvement. Parce que je l'ai déjà expliqué ici, je le réexplique brièvement. On le dit clairement en fond. L'homme est béton. Ça, il y a un imbécile dans le pays qui dit qu'il est béton. Béton est plus petit que tous les hommes. Parce que la mère du monde est plus petite que le béton. Nous sommes tous des bétons. Nous avons tous autorité sur les bétons ici. Parce que l'homme est toujours plus grand que la femme. Donc, Dieu a fait de l'homme un béton. Ça veut dire le père, le maître. Lisez dans la Genèse. Dieu dit, mais vous avez autorité. Tout pouvoir vous a été donné. Régnez, contrôlez, dominez, multipliez-vous. Assujettissez toute la terre. Dieu a donné pouvoir total à l'homme. Et c'est pour ça que chaque fois que Dieu veut agir dans l'histoire, regardez bien, Dieu téléguide des hommes. Il n'agit pas lui-même. Le leadership là de faire des choses extraordinaires à des gens parfaitement ordinaires, c'est Dieu qui l'a créé, ce n'est pas l'homme qui l'a créé. Dieu a délivré les Israélites d'Égypte, mais ce n'est pas lui qui a agi. Il aurait pu se lever, frapper Pharaon, parler à Pharaon et que Pharaon les libère. Pourquoi il envoyait Moïse avec un bâton? Et chaque fois, il disait à Moïse, fais ci. Moïse pouvait décider de ne pas le faire. Rien ne se passerait. Mais quand Dieu dit fait, il faut un homme pour faire. Quand l'homme fait, ça donne le résultat. Le problème, c'est que tous les jours, Dieu dit à des hommes de faire, ils ne font pas. 10 fois, Dieu a dit à Moïse, fait. 10 fois, Moïse a fait. Si une seule fois, il n'avait pas fait, ça ne se passerait pas. Quand ils se sont trouvés face à la mer rouge, Dieu aurait pu ouvrir la mer. Regardez bien, il dit toujours, Moïse, lève ton bâton, fends la mer. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Quand Dieu vous dit fait, c'est qu'il a préparé la chose. Jésus dit que s'il fait des miracles, c'est parce qu'il ne fait que ce qu'il a vu son Père faire. Jésus fait les miracles parce que Dieu les lui dicte. Si tu es là, Dieu te montre une vision que ta voisine est en train de mourir, que tu lui imposes des mains guéries. Tu arrives à la maison, tu vois ta voisine malade. Tu peux jouer le super-héros. Venez, venez, venez. Regardez, je vais la sauver tout de suite. On va croire que tu es fort. Au nom de Jésus, sois guéri. Lève-toi, elle va se lever. Pourquoi? Dieu t'a déjà montré que tu vas la guérir. Quand il t'a montré là, c'est feu vert. Tu peux être le plus idiot, le plus pécheur. Va là-bas, joue le zéro, tu vas la guérir. Ce n'est pas toi, il a déjà réalisé ça. Toi, tu es la télécommande. Pourquoi tu es la télécommande? Parce que l'homme étant béton, Dieu dit que lui n'est pas un voleur. Jésus dit, je ne suis pas un voleur. C'est le voleur qui rentre par les fenêtres. Moi, je rentre par la porte. Jésus a dit ça, n'est-ce pas? C'est quoi la porte? L'homme est béton. Venir agir sur la terre sans consulter le béton, sans consulter le rouetteur, c'est être un voleur. Ne rentre dans une maison sans voir le rouetteur que les voleurs. Satan est rentré sur la terre sans voir le rouetteur, c'est un voleur. C'est ce que Jésus dit. Dieu n'étant pas un voleur, quand il vient sur la terre, il demande à Béthor d'agir. Ézéchiel, pose-moi là, dis-leur. Pourquoi tu ne leur dis pas? Dis-leur de se réveiller. Pourquoi Ézéchiel ne dit pas lui-même de se réveiller? Pourquoi Dieu ne dit pas lui-même aux esprits de se réveiller? Même pour leur donner le souffle de vie. Dieu dit encore à Ézéchiel, souffle. Pourquoi Dieu ne souffle pas? Pourquoi il dit à Moïse, ouvre la mer? Après, pour Jéricho, il dit au sacrificateur, mettez le pied dans le Jourdain. Dès que le pied des sacrificateurs touche le Jourdain s'ouvre. Tu aurais pu ouvrir le Jourdain du marché. Parce que Dieu, respectant l'autorité de l'homme, quand il veut aider l'homme, il ne fait pas le boulot de l'homme à sa place. Il dit à l'homme quoi faire et il donne à l'homme l'onction pour le faire. Donc, si Dieu veut vous bénir, ça ne sera jamais comme si vous êtes en train de dormir et il va régler les problèmes de votre vie. Il va te mettre à l'idée, va faire telle chose. Il va dire, j'ai aidé à tout essayer. Hein. J'ai été voir 10 personnes, j'ai fait des lettres de demande d'emploi, personne ne m'a répondu. La chose te dit, va déposer une demande d'emploi à tel monsieur. Je suis fatigué, on va quoi aller déposer, ça ne donnera rien. Et l'idée, ça y est, c'est pas quelqu'un que tu connais. Ce n'est pas que tu as réfléchi. Il n'y a aucune logique. C'est même quelqu'un que tu détestes. C'est quelqu'un qui peut-être tu as demandé 10 fois, il a refusé. Mais chaque fois que tu pries, c'est pas que tu penses à lui, hein, mais l'idée te revient. Va déposer à telle personne. Il faut courir aller déposer. C'est Dieu qui est en train de te dire, lève ton bâton, je vais ouvrir. Si tu ne lui obéis pas, tu manques un miracle. Oh, Dieu parle comme un murmure, un doux, il a dit Élie. Un doux et subtil murmure. Dieu ne va jamais crier, allô, allô, ici Dieu, écoutez, hein, c'est Dieu, voilà la preuve que je suis Dieu. Je te dis maintenant d'aller déposer, si tu déposes la marche, il ne va pas se fatiguer. Il parlera à ton cœur, il te donnera la conviction, il te rappellera qu'il faut essayer, qu'il ne faut jamais te décourager. Si tu essaies, cette fois-là, ça marchera, parce que cette fois-là, c'est lui qui a dit de le faire. Ou tu es en train de dormir, tu rêves que ta voisine est en train de te donner l'emploi, tu ne sais même pas où elle travaille. Le matin, bonjour, tu as dit ça va, on ne sait jamais où travaille où. Vous savez, je cherche l'emploi. Ah bon? Tu as fait quoi? Tel. Ça tombe bien, on est en train de recruter un comptable. Viens. Dieu t'a dit la nuit, va lui parler. Tu vas dire, ah, j'ai rêvé, oh, la dame a un emploi. Oh, quel emploi est là? C'est dans le rien. Hein? C'est du tout manger en dormant. Ne banalisez pas les révélations de Dieu. C'est là où ça se joue en fait. Et beaucoup de gens manquent le miracle. Dieu dit toujours quoi faire. Quand par exemple, il m'a dit, vends ton domaine. J'aurais pu après faire ça, dire non, 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 jamais. On va dire que je n'ai plus rien. Jamais je n'en ferai là aujourd'hui. Une obéissance. Et le miracle se produit. Dieu dira toujours, lève ton bâton. Dieu dira toujours, mets le pied dans le Jourdain. Dieu dira toujours, mets-toi devant la mur de Jéricho, dis Alléluia, ça va s'écouler. Mais quand tu vas vouloir dire Alléluia devant un mur, imaginez que je viens vous dire ici que Dieu a dit de me mettre devant vous, de commencer à danser qu'un milliard va tomber. Vous allez tous vous moquer de moi. Mais Dieu peut par exemple dire, bon, Edgar va te mettre devant les gars, dis-leur que nous allons danser pendant une heure, qu'un milliard va apparaître au milieu. Quand je vais dire ça, tout le monde va se moquer de moi. Monsieur qui est fou aujourd'hui, je vais sortir à la maison. Hein, monsieur Prince, Dieu va vous aider. Quand ça va aller, ça va aller, ça va aller. Hein? Vous allez appeler même des docteurs pour dire, vous venez voir, ils sont que qui vient péter un plan. Et vous n'allez pas rester. Et si je ne sais pas faire, moi-même, je n'ose même pas vous dire ça. Je vais me mettre dans un coin, commencer à prier. Dieu va dire, je ne t'ai pas demandé de prier. Dieu dit, je te mets au milieu déjà, ton quoi. Je dis que tu vas danser, que milliard va apparaître. Mais vous croyez que Dieu est un général. Je dis, bon, écoutez, dites à tout le monde, c'est ça. Josué se met devant un peuple. Nous allons faire tomber ce mur de 10 mètres de hauteur et d'épaisseur en dansant. Vous croyez que les gens l'ont applaudi? Ce peuple rebelle-là leur dit qu'on va danser autour d'une ville pendant 7 jours et le mur va tomber. Vous croyez que pendant ce temps-là, le général avait la paix du cœur? J'espère que Dieu ne va pas me renier. Ou bien, ils n'auraient pu ne jamais le faire. Et puis, non, Dieu, trouve une autre formule. Là, ils ne vont jamais accepter. Tu vas dire, bon, moi je te dis, et toi tu dis qu'ils ne vont jamais accepter. Tant pis pour vous. Dieu fait comme il veut. Mais quand il te dit ce qu'il faut faire, si tu le fais, rien ne peut empêcher ça de marcher. Parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui fais. C'est lui qui fait. Mais comme lui n'est pas béton, il se cache derrière toi pour que ce soit légal. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose de bizarre, ce n'est pas vous qui faites. Vous êtes une marionnette qu'il utilise pour que Satan ne dise pas qu'il est venu agir illégalement sur la terre. C'est tout. Il n'a pas besoin de vous en réalité. La réalité, c'est que les Jésus étaient là à vouloir se battre quand ils ont vu l'ange de l'Éternel. Donc, eux, ils s'agitaient. Mais pendant qu'ils s'agitaient, l'ange de l'Éternel se couvrait du mur. Et personne ne le voyait. Quand le mur s'est écroulé, même l'adversaire n'a vu que les Israélites. Mais la réalité, c'est que ce n'était pas leur combat. C'est l'ange de l'Éternel qui les a vaincus. Si vous n'avez pas la foi, l'ange de l'Éternel ne peut pas travailler pour vous. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez même pas franchi les étapes jusqu'à être là où l'ange de l'Éternel peut faire la différence. C'est ça la foi. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de prier, de jeûner, d'aller à l'église sans la foi. C'est comme s'ils sont dans le désert ou en Égypte et puis ils passent tout le temps à faire des, comme ils le faisaient, des holocaustes, des sacrifices, des actions de grâce, des rituels. Ils rentraient dans la tente de la création, rien de tout ça les a sauvés, ils sont tous morts. Ou bien, quel sacrifice ils n'ont pas fait, le rituel était même compliqué. Et il ne faut pas rentrer ici, il ne faut pas rentrer par là, il faut tuer le mouton, il faut brûler la vache rousse. C'est compliqué, regarde tout ce qu'ils ont fait de compliqué. Mais ils sont tous morts dans le désert. Ils sont tous morts dans le désert, en respectant parfaitement tout ça malgré eux. Ça ne sauve pas de respecter la loi. Il faut avoir la grâce de la foi, entendre ce que Dieu dit de faire et le faire si vous voulez que ça marche. Et c'est ce que nous n'apprenons pas à l'église. On ne nous apprend pas à l'église à connaître Dieu, à l'écouter et à faire ce qu'il dit de faire. Imaginez, il y a des églises où quand quelqu'un dit qu'il a entendu Dieu, on dit qu'on va écrire à Rome pour demander au pape de confirmer que c'est possible d'avoir entendu Dieu. Ou bien, quand quelqu'un dit par exemple que le Saint-Esprit lui est apparu, on écrit au Vatican et une commission du Vatican détermine si c'est possible que Dieu parle. Parce qu'en temps, Dieu serait mort, donc il faut voir si c'est arrivé en temps. C'est comme ça, non? Je me trompe. C'est pas comme ça? Alors, si on dit à des chrétiens qu'il faut que quelqu'un décide si c'est vrai que Dieu peut encore parler parce qu'on lui a coupé la langue, vous voyez que ces chrétiens-là sont foutus. Et pendant ce temps, ces mêmes chrétiens disent tous les jours, dis seulement un mot, je serai guéri. Il dit, moi, on dit qu'il faut demander au Vatican s'il peut dire des mots. On dit, dis seulement, moi, je serai guéri. Et il parle, on dit, ah? Alors qu'on vous dit tous les jours, 10 fois par jour, dis seulement, moi, je serai guéri, dis seulement, moi, je serai guéri. Oui, si Dieu dit un mot, vous serez guéri. Quand vous priez là, après avoir parlé, taisez-vous, écoutez quel mot il dit, quelle idée il balance, quelle révélation il donne. Quand vous demandez à Dieu quelque chose, surtout quand vous êtes en joie, quand vous le louez, il dit toujours quelque chose. Tu peux être en train de demander quelque chose à Dieu et il te met à cœur, tu l'auras. Mais pas maintenant, patiente. J'ai d'abord des choses à t'apprendre. C'est mieux que le silence. C'est un grand cadeau qu'il t'a fait. On peut demander quelque chose à Dieu, dit, tu vas te marier, mais en 2013 ou en 2020, quand Dieu te dit ça, tu n'es pas suivi, tu le confirmes par 2 ou 3 fois, même si c'est cette année, tu n'es pas sans souci parce que tu sais que Dieu a dit qu'à tel moment tu vas l'avoir. Tu t'en fous de ce qui se passe entre Dieu. Mais ce qui fait souffrir, c'est d'être dans l'espérance sans savoir qu'est-ce qui va se passer. Vous devez être capable d'écouter Dieu. Vous devez être capable de vous mettre en mouvement. Vous devez être capable d'être patient. Vous devez être obéissant. Vous devez arrêter de vous plaindre. Les Israéliens sont morts parce qu'ils se sont plaints. Le seul péché constant des Israélites, ça a été l'impatience et les plaintes. Et au Bénin, de quoi sommes-nous le plus champion? Ça là n'est pas bon, le président n'est pas bon, le gouvernement n'est pas bon, tel aurait dû faire ça, et puis le soleil n'est pas bon, les hommes ne sont pas bons. On est toujours en train de se plaindre de quelque chose. C'est un grand péché. Rien n'énerve Dieu plus que quelqu'un qui se plaint. Un jeune m'a écrit hier sur Facebook, « Ah, monsieur Kidibi, vous avez vu, vraiment, nos dirigeants là sont mauvais, ils ne font rien pour l'emploi, les gens cherchent de l'emploi, on ne leur donne pas, on les chasse. » Et qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, j'en pense que tu dois te débrouiller toi-même pour trouver de l'emploi. Et arrêtez de voir qu'est-ce que les autres devraient faire ou ne pas faire. Personne n'a jamais été sauvé en critiquant les autres. On est sauvé en faisant ce qu'on a à faire, quoi que les autres fassent. Qu'est-ce que ça lui rapporte de s'énerver sur Internet contre des gens qui n'ont rien à foutre de lui? En disant qu'ils ne sont pas sérieux, qu'ils sont des bandits, ils ont pillé notre génération, ils ont maudit notre génération, ça lui donne quoi? Ça lui donne quoi? On m'a dit récemment que des gens ont créé une association de chômeurs. Bon, les gens qui travaillent, ils n'ont pas fini de s'en sortir. Les syndicats des gens, des finances, des magistrats n'ont pas fini de s'en sortir. Mais ceux qui ne sont rien qui vont faire syndicat, ça va marcher. Quand même, il faut qu'on arrête de raconter des bêtises. Hein? Les syndicats des riches ne s'en sont pas sortis. C'est les syndicats des chômeurs qui vont s'en sortir. Ils ont même l'argent quand ils parlent pour que quelqu'un vienne filmer ce qu'ils ont dit. Hein? C'est de la bêtise. Se plaindre, c'est toujours pas sage. Ne vous plaignez de rien. Ah, vous voyez, ils ont été injustes. Ils m'ont pris ce marché. C'était pour moi. Ils m'ont escroqué. Ne te plains pas. Rends grâce à Dieu pour toi. Ah, c'est des bandits. Ils m'ont pillé. Si ce n'était pas les braqueurs là, ils sont venus. Ils ont mis ma vie à zéro. Et puis il y a des gens comme ça, vous les voyez pendant 20 ans. Ils se plaignent de la même chose qui leur est arrivée. Et leur vie finit par être détruite à l'autel de ce qui leur est arrivé. Mais il y a d'autres personnes, pire leur est arrivée, ils sont encore plus loin aujourd'hui dans la vie. Ce qui vous brise, ce n'est pas ce qui vous arrive. C'est le fait de faire de cette chose-là l'événement de votre vie et décide de construire toute votre vie autour de ça. Vous voyez déjà, oui, c'est ça, en 2000 tel, on nous a tous virés, c'était pas volontaire, voilà où j'en suis aujourd'hui, depuis je n'ai plus rien trouvé. Et tous les jours disent la même chose. Plein de gens ont été déflattés en même temps, il y en a qui sont des patrons d'entreprise, qui sont milliardaires aujourd'hui. Pourquoi lui, il est pauvre, alors que les autres aussi ont été déflattés? C'est la vraie question. Les gouvernants sont méchants, d'accord. Mais pour les gens qui sortent de l'université, qui ont du boulot avant de sortir de l'université, et d'autres sont sortis depuis 20 ans, ils sont en train de faire 20 millions, mais d'autres sont à la maison. Qu'est-ce qui fait la différence entre eux? C'est le même gouvernement dans le même pays, non? Arrêtez de vous plaindre. Se plaindre, c'est essayer d'accuser les autres pour ce qui vous arrive. Mais en réalité, c'est accuser Dieu de laisser les choses vous arriver. Parce que dans tous les cas, ce qui vous arrive n'est possible que si Dieu le permet. Des questions? On tend vers la fin. Ça se joue là, votre vie. Si vous gérez bien votre désert, vous allez arriver au port de Jéricho. Vous arrivez à Jéricho, ce sera un gros défi de foi. Parce que remarquez bien, ce qu'ils ont fait à Jéricho, là, il n'y avait aucune autre formule que Dieu. Hein. Les grandes victoires de votre vie, ce n'est pas que Dieu va vous aider. C'est que sans Dieu, vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas que Dieu va vous aider à faire. C'est Dieu fait à votre place. Ce qui change une vie, on ne le fait jamais. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas oui, je vais devenir riche, Dieu va m'aider à travers pour devenir riche. C'est faux. Dieu va vous rendre riche quand il veut. Il y a des gens qui courent matin, midi, soir, ils sont pauvres. Il y a des gens qui dorment, on les appelle pour dire j'ai un contrat de 3 milliards pour toi, ils viennent le lendemain matin, il est riche. C'est Dieu qui enrichit. Ce qui change une vie n'est jamais fait par quelqu'un. C'est Dieu qui le fait. En mettant quelqu'un devant. Il y a une question, je crois.
Oui. Je voudrais juste savoir quelle est la différence entre la volonté permise de Dieu et la vraie attaque satanique. Sinon, ça dit qu'il existe, je ne sais pas, une entente de co-gestion des hommes entre Dieu et Satan.
Non, Dieu est le maître de tout le monde. D'accord? Dieu ne s'entend jamais avec Satan. La Bible dit très clairement que Dieu n'est pas tenté par le mal, il n'utilise pas le mal. Donc, Dieu ne va jamais s'entendre avec Satan pour faire du mal à quelqu'un. Mais quand vous êtes là et que vous obéissez à Dieu, il met, comme vous voyez, les Américains parlent de boucliers antimissiles. Ils ont le rêve d'avoir un système qui protège, même dans l'atmosphère de leur pays. Vous lancez n'importe quoi, ça rebondit, ils ne peuvent rien avoir. Si vous êtes protégé par Dieu, c'est que vous êtes sur un bouclier spirituel anti-tout. N'importe qui lance n'importe quoi, même si vous dormez, vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts pour vous protéger. Le bouclier est là. L'idée, c'est que si un jour, vous êtes dans votre chambre et un caillou tombe dans votre maison, si vous êtes intelligent, vous savez que ça veut dire que le bouclier a un problème. Et il n'y a pas deux choses qui peuvent créer de problème à ce bouclier, à part l'éloignement de Dieu, à part la désobéissance. Satan vous attaque tous les jours, lui, c'est son travail. Mais quand Dieu est avec vous, en vous attaquant, il fait comme quelqu'un le dit, c'est comme une poule qui est en train avec son bec d'essai d'attaquer ou de manger de l'arachide dans une bouteille. Vous voyez, je mets une bouteille transparente là, je mets de l'arachide dedans. La poule peut être en train de caqueter contre la bouteille fatiguée, elle va se briser le bec à la limite, mais l'arachide ne peut jamais rien avoir. Ça va lui plaire seulement. Pour elle, c'est qu'à force de caqueter, ça va finir par arriver, mais ce n'est pas possible. Il y a la bouteille qui protège l'arachide. Mais si un jour, il y a un trou dans cette bouteille-là et que la poule arrive à prendre un seul grain, l'homme intelligent sait que ce n'est pas le meilleur de la poule. Aucune poule ne peut briser une bouteille. C'est que quelque chose, quelqu'un a percé d'abord la bouteille là avant que la poule n'arrive. On est d'accord? C'est pareil. Satan vous attaque tous les jours. Ça, là, c'est son boulot, il n'a rien d'autre à faire. Mais tous les jours, Dieu a la capacité de faire en sorte que toutes ces attaques sont vaines. Il est écrit, ils vous combattront mais ne vaincront pas. Toute âme forgée contre vous sera vaine. C'est écrit, non? C'est ça que ça veut dire. Si vous êtes avec Dieu, rien ne vous arrive. Pas parce qu'il ne vous attaque pas, mais parce que rien ne vous arrive. Mais quand vous péchez, soit Dieu permet, soit vos péchés ouvrent une porte dans la protection. Et Satan rentre par cette porte-là. Parce que, n'oubliez pas, le péché ne vient pas de vous. C'est Satan qui vient dire, regarde, c'est joli, c'est bon. Imagine la fille, là, tu vois, elle est belle, non? Imagine toi dans le lit avec elle. Viens, viens. Tu hésites, bon, ok, 2 minutes. Pendant les 2 minutes, là, tu as ouvert une porte. C'est lui qui t'a envoyé là-bas. Il passe par ici. Pendant que tu es là-bas, il te cogne proprement. Il dit, Seigneur, mais c'est toi qui as ouvert la porte. C'est pas moi. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez que, par exemple, il y a une crise dans notre pays. Ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. L'armée française est là pour protéger les Français. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, là où il y a le consulat, là où il y a la présidence, ils vont cadrer la berge là. Peut-être jusqu'à Ganry, où il y a la LGBTE qu'on sort, ou bien peut-être jusqu'au quartier Jacques. Vous allez voir que sur la bande lagunaire, là, jusqu'à l'aéroport, il y aura un cordon de militaires, de blindés, d'hélicoptères. Tous les Français, les citoyens français qui sont là, on va aller chercher un hélicoptère dans la maison, on va les mettre dans ce rayon-là. Consulat de France, ambassade, port, aéroport, ils vont être là. Vous ne pourrez même pas mettre le pied à Ibis. On vous voit, on va vous flinguer. C'était à Côte d'Ivoire, c'était la zone de l'hôtel du Golfe. Les gardes de Bamako peuvent tout faire dans tout le pays. Là, c'est verrouillé. L'armée française est là, on ne peut rien faire à personne. On est d'accord. Tu es un soldat français, ou tu es même un béninois, bon, les Français, puis toi, ils t'ont dit, bon, viens, on te met dans cette zone-là. Dans cette zone-là, l'ennemi qui est en train de faire des ordres, on ne peut rien te faire. Là, tu es protégé. On t'aime ou ne t'aime pas, là, on ne peut rien te faire. Maintenant, là, nous ne sais pas ce qui te plaît. Ou te plan, tu dis, bon, comme ma femme est en voyage, et puis c'est la nuit, je suis seul dans ma chambre avec cette crise-là, je vais faire un petit tour à jonquer. Ce n'est pas grave, c'est juste quelques temps à jonquer pour me défouler un peu. Tu sors du réunion, qui est verrouillé par l'armée. Tu viens à Jonquet, où il y a les Soweto, il y a les drogués, il y a les bandits. Tu rentres dans la chambre d'une prostituée. Et on apprend le lendemain matin qu'on t'a vu mort. On dit, mais comment on a pu le tuer? Mais il était protégé, il était sous la protection de l'armée française. Où était l'armée française pour pas la tuer? L'armée française ne va pas le suivre à Jonquet. L'armée française a défini un territoire de sécurité dans lequel on l'a mis. Quand lui-même tenté par le péché, il sort du territoire de sécurité pour aller à Jonquet. À Jonquet n'est pas sous territoire français, il est sous territoire ennemi. C'est un Américain parce qu'il a envie d'avoir une copine afghane et va à Kaboul. Je ne pense pas que l'armée américaine peut le protéger à Kaboul parce qu'il est citoyen américain. Ou bien, l'armée américaine protège un citoyen américain là où l'armée américaine est fort. Dieu protège les siens là où il est fort. Dieu ne va pas envoyer ses anges dans le péché pour te protéger. Dieu va envoyer ses anges à Jonquet dans le péché parce que toi tu es parti à Jonquet. Non? Donc, là où tu es saint, les anges sont là confortables. Personne ne peut te toucher, c'est des gardes-corps. Si tu décides d'aller quelque part qui est sale, les anges vont dire, comme on est des anges, on peut pas aller là-bas. Vas-y et reviens. Si tu as la chance qu'avant de revenir, rien t'est arrivé, c'est tant mieux pour toi. Mais comme c'est Satan qui t'a appelé là-bas, il ne va pas être con. Pendant que tu es sorti, il dit, ah, ce n'est pas tous les jours que ce gars-là veut faire garde-corps. Il faut frapper. Tu ne sais même pas encore sorti qu'il va te smacher. Seigneur, Seigneur, tu es où? Il m'a frappé. Tu n'étais pas là, on t'a dit de rester quand il t'a frappé. Hein. J'espère que c'est clair. Je vous comprends. Le Saint-Esprit me dit que dans votre cœur, là, vous réfléchissez pour dire, mais c'est quand même terrible. Qu'est-ce qu'il dit ce type-là? Il n'y a rien à faire pour échapper au péché. Petit, il n'y a rien à faire. Dieu a tout verrouillé. Si tu ne commences pas vite, tu vas prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups. Et tu vas finir par comprendre dans tous les cas. Donc, il vaut mieux comprendre en même temps. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine. Quand on te frappe, il y a des enfants, on doit les frapper 100 fois avant qu'ils ne laissent la chose. Tu sais que papa n'aime pas ça. Il ne faut pas attendre qu'il te frappe, que dans tous les cas, tu vas finir par laisser. Il faut vite laisser. Sinon, tu vas payer le prix et tu vas encore laisser après. C'est pas bon. Il n'y a rien à faire, petit. Il n'y a rien à faire. Ou tu veux oublier Dieu pour aller en enfer, et là, tu fais ce que tu veux. Mais il n'y a pas de possibilité d'appeler Dieu, de compter sur Dieu, de voir les miracles de Dieu, de voir la protection de Dieu, de voir la bénédiction de Dieu en faisant des péchés. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être parfait. Aucun homme n'est parfait. Mais Dieu veut un cœur en guerre contre le péché. Il ne reproche pas aux Josué qu'on soit de ne pas finir de tuer tous les ennemis le même jour. Mais il veut les voir en guerre contre le péché. Il ne veut pas les voir croiser un ennemi et dire, mon cet ennemi-là, je te accepterai ça d'abord. Si tu croises un ennemi, tu dois le détruire. L'ennemi que tu n'as pas encore croisé, on peut voir après. Tu croises un péché, tu sais que ça là c'est un péché. Pendant que nous parlons, par exemple, tu sais que telle chose que tu fais là, c'est un péché, d'après tout ce qu'on dit. Il faut arrêter. Il n'y a rien à faire pour fêter ça. Tant que tu n'as pas arrêté, Dieu sera sur ton dos. Tu ne dormiras pas. Tu passeras n'importe où, la chose va te revenir en esprit. Jusqu'au jour où tu auras vaincu ça. Quand tu vaincras, maintenant, vas-y, bravo. Et chaque fois qu'on renonce à un grand péché, Dieu vous donne une grande bénédiction. Systématiquement, ceux qui sont grands dans la foi vous le diront. Dès que vous faites une grande victoire sur le péché, Dieu vous donne une grande bénédiction pour vous féliciter. Et vous recommencez encore. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien de plus merveilleux que de vaincre le péché. Il n'y a aucune solution contre ça. Il n'y a rien. Il ne faut pas avoir peur. Parce que le résultat est merveilleux. Et vous allez expérimenter que l'obéissance est plus douce que le péché. Satan nous donne l'impression que le péché est doux. Mais quand vous allez expérimenter l'obéissance, vous allez découvrir que l'obéissance est encore plus douce que le péché. Mais Satan veille à ce que vous ne le sachiez pas. Il n'y a rien dans le péché. La preuve, personne n'est heureux. Nous sommes tous pécheurs. Qui est heureux? Si on était heureux dans le péché, est-ce qu'on serait ici? Nous sommes ici parce que de toute évidence, nous ne sommes pas heureux dans le péché. Ou bien, si on était heureux, nous ne serions pas là. Des questions? Oui.
Après plusieurs analyses, quand j'ai tout écouté, j'aimerais demander, est-ce que Jéricho, c'est ici? C'est-à-dire, apparemment, enfin pour moi, j'ai fini par comprendre qu'on ne peut pas arriver à Jéricho sur la terre.
Si.
Et si on est à Jéricho sur la terre, comment faire pour y rester?
Oui, excellente question. Jéricho, c'est sur la terre. Le ciel, c'est le ciel. Jéricho n'a rien à voir avec le ciel. Jéricho, c'est sur la terre. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a des gens dans leur vie qui ont atteint des niveaux où ils ne manquaient de rien. Ils avaient la sécurité, la santé, les bénédictions, leur famille était en paix, ils avaient une grande onction, ils parlaient avec Dieu, Dieu les écoutait. Ils n'avaient aucun problème. Les gens comme les Abraham et consorts, ils arrivent à un niveau où ils sont tout simplement bénis en tout. D'accord? Vous allez arriver à un niveau de votre vie où vous allez avoir un couple excellent, vous allez avoir de la prospérité, vous allez être milliardaire, vous ne saurez pas quoi faire de l'argent, vous ferez du bien, vous allez être très spirituellement puissant. Un ennemi vous attaque, c'est-à-dire un sorcier vous fait quelque chose, il va mourir lui-même, va vous dire, mais tu as pris telle personne est morte. Et vous arrivez à un niveau où vous êtes dans une autre dimension. Tout ce que l'homme peut souhaiter, à part que nous sommes des humains qui aura toujours des problèmes, parce que dans Jéricho, là, ils n'ont pas dormi. Hein. Jéricho, il y a eu des guerres. On les attaquait, mais chaque fois, ils gagnaient. Jéricho, il a fallu conquérir du territoire. Jéricho, il a fallu s'organiser. Et là, ça, Jéricho, ils ont recommencé à pécher. C'est après la victoire à Jéricho que les Akans ont été encore frappés. Et ils ont perdu contre Haï. Donc, Jéricho n'est pas la fin de la vie. Jéricho, c'est une étape où vous sortez du désert. Dans le désert, vous mangez la manne. La manne, c'est quoi? Chaque jour, la nourriture vient. Quand on est dans les phases où on a des problèmes, là, on vient d'être converti. on vit au quotidien. On souhaite plein de choses qu'on n'a jamais. Mais Dieu fait en sorte que vous ne mourrez jamais de faim. Chaque fois, il vous sauve en donnant juste ce qu'il faut pour aujourd'hui. Ça fait que demain, vous allez encore avoir des soucis. Ou bien, c'est ça, non? Vous n'êtes pas le seul auquel ça arrive. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal, c'est le désert, ça. Le désert, c'est la manne. La manne, c'est que personne ne meurt. Mais personne n'a de quoi faire des économies. La Bible dit que quand ils prennent la manne, on dit tu prends pour aujourd'hui. Certains ont cru qu'ils pourraient prendre pour 2 jours. Le soir, ceux qui ont pris pour le deuxième jour étaient pourris. Quand vous êtes dans le désert, même si on te donne 1 million, si tu ne dépenses pas tout pour faire le bien aujourd'hui, tu penses que ça va te protéger demain, demain tu vas le perdre. Dieu ne permet jamais que ce qu'on a dans le désert vous donne un confort extraordinaire. Dans le désert, on ne mange que le nécessaire. C'est une école. Si dans le camp militaire, on commence à donner du gâteau et du chocolat, on ne peut pas dire que tu es en train d'être dans un camp militaire. Le désert, c'est un camp militaire. Donc, tu ne peux pas avoir le confort qu'on rêve. Dieu fait en sorte que tu sens que tu es proche, mais en même temps, tu n'as pas. Ça t'oblige à te dépasser. Ça t'oblige à mieux le connaître. Ça t'oblige à mieux comprendre. Ça t'oblige à le chercher. Ça t'oblige à aller plus loin avec lui, à faire plus de sacrifices. Jusqu'à ce que tu arrives dans une phase où tu sens maintenant que tu vogues. Tu fais ce que tu veux. Tu as de bonnes bénédictions. Tu peux être milliardaire. Tu bénis des gens. On sent que maintenant, là, tu as décollé. Mais tu as décollé ne veut pas dire que tu as atterri au ciel. Là aussi, et les Israélites nous ont commis beaucoup de péchés. Si tu penses que c'est fini, tu recommences avec l'idolâtrie, tu recommences avec le péché, tu acceptes n'importe quoi, comme l'histoire d'Israël qu'on a vu par la suite, David et consorts sont venus bien après Jéricho. Mais toute l'histoire a toujours été, ils sont d'accord dans la terre promise. S'ils obéissent, ils sont bénis. Ils désobéissent, ils sont frappés. Ils obéissent, ils sont bénis. Ils désobéissent, ils sont frappés. C'est toute l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont frappés d'avoir crucifié Jésus. Ils sont frappés d'avoir reçu le Seigneur et de ne l'avoir pas reconnu. Les choses comme l'Holocauste avec Hitler, c'est l'histoire dit, Dieu a permis ça autant qu'on les a envoyés à Babylone comme un châtiment pour avoir crucifié le Seigneur. L'histoire, c'est l'histoire de nos sanctions pour la désobéissance et de nos bénédictions, de nos cadeaux pour l'obéissance. Donc, ce n'est pas parce que vous allez arriver à la terre promise de Jéricho que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez sans respecter Dieu. Mais quand vous arrivez à la terre promise, vous êtes passé dans un désert où vous avez appris à connaître Dieu. Vous savez ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il vous a programmé, vous a discipliné. Vous êtes normalement un soldat bien entraîné. On peut vous lâcher et savoir que vous êtes un combattant équipé pour gagner des combats tout en restant en connexion, en discipline avec son armée. Si vous êtes un bon soldat, vous allez plus ou moins gagner tout le temps sans grands efforts. Il faudra rester connecté au général. Mais ce n'est plus le moment où on va vous briser comme dans un camp militaire. Mais si vous pensez que vous êtes déjà fort, vous commencez à vous rebeller, on va vous briser. On peut briser quelqu'un à tout moment. Donc, je ne connais pas la fin de la vie, mais c'est une étape de la vie où maintenant, on peut jouir des sacrifices qu'on a fait en Égypte et surtout de ce qu'on a fait dans le désert. Donc, quand vous allez arriver dans votre Jéricho, vous allez toujours avoir des problèmes. Mais plus les problèmes qu'on a aujourd'hui là. Vous vous sentirez que c'est autre chose. Vous allez pouvoir jouir. Vous allez pouvoir amasser. On ne peut pas être milliardaire dans le désert. Mais on peut être milliardaire à Jéricho. On ne peut pas avoir une grande onction, faire de grandes choses pour le Seigneur dans le désert. C'est une école. Mais dans Jéricho, on peut le faire. Ça a répondu à votre question? Je rappelle à tout le monde que tous nos séminaires sont enregistrés. Et les copies sont gratuitement disponibles. Vous avez une clé USB, vous avez un DVD, vous l'amenez, on va vous copier dessus. On en a pour déjà presque 16 gigas de données. Vous les copiez, vous les donnez à qui vous voulez. Je vous autorise à la piraterie en quantité industrielle. Donc, il y a des dizaines de séminaires qui sont là sur la foi, sur la santé. Tout ce que nous disons là, beaucoup de choses sont expliquées déjà. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Donc, si quelqu'un a envie d'apprendre vite, parce que vous savez, la Bible dit que le rythme auquel vous consommez la parole détermine le rythme auquel votre âme va prospérer. Et votre âme prospère comme vous-même vous prospérez. C'est une induction. Mange beaucoup de paroles de Dieu, tu grandiras vite au niveau spirituel. Si tu grandis au niveau spirituel, ta croissance matérielle est proportionnelle à ta croissance spirituelle. Donc personne ne peut être matériellement béni en étant spirituellement bête. Personne. Vous allez voir même dans le monde, les païens là, pour être riches, ils montent en grâce spirituelle au niveau satanique ou au niveau de la corruption. Il y a toujours un domaine spirituel, soit le péché est créé par Satan, soit la sanctification qui entraîne un changement destiné. Personne ne peut devenir milliardaire sans pécher ou sans plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. On est d'accord? Donc, si vous avez choisi de ne pas pécher, il ne vous reste qu'un seul chemin. Plaire beaucoup à Dieu pour être fortement béni. J'espère que vous n'avez pas peur. Qui a peur de marcher avec le Seigneur? C'est mon épouse qui dit souvent, moi je ne comprends pas bien fond, toi c'est à Rouen, non qui est à Rouen, c'est comme ça que vous dites non. Voilà. Un homme averti en vos deux. Parce que si on ne vous avertit pas, les gens rentrent dans la foi chrétienne comme des bébés. Ah, je suis maintenant à l'église, je veux être béni, tout va marcher, le pasteur a prié pour nous, il a dit au nom de Jésus. Et ils croient naïvement que la vie est comme ça. À la première gifle de Satan, il essaie de chicoter Satan. Comme il voit que Satan n'a pas de corps qu'on peut chicoter, il pleure, il reste à la maison, il ne vient plus à l'église. Son histoire spirituelle est terminée, il est retourné en Égypte. Et on dit que Dieu n'est pas fort, Dieu ne fait rien. C'est exactement comme si on vous dit qu'un œuf dans un incubateur, ça donne un poussin. Vous voyez une vendeuse de riz passer, vous prenez un œuf sur sa tête, vous mettez dans l'incubateur. Ça ne va jamais donner de poussin. On n'a pas de prendre les œufs qui sont déjà cuits. On dit les œufs, il faut demander quelle catégorie d'œufs. Nous périssons faute de connaissances. C'est le défaut d'apprendre ces choses-là qui font que les gens vivent tout le temps en disant qu'ils sont chrétiens et ils ont une vie pire que la vie des païens. Au moins, les païens sont bénis par Satan en attendant d'aller en enfer. Oui, c'est pour ça que la vie des païens est parfois meilleure que la vie des chrétiens. Eux, ils ont ce qu'ils ont aujourd'hui. Satan le leur donne pour acquérir le droit de les mettre en enfer. Le problème, c'est que c'est éternel. Donc, il faut essayer de les sauver. Mais nous, c'est dommage de ne pas être béni ici par Satan et de ne pas être béni par Dieu. C'est quand même con. Ou bien, il faut choisir. Si vous ne voulez pas suivre Jésus, suivez Satan. Au moins, il va vous donner pour vous ici avant que vous alliez en enfer. Même si l'enfer, c'est pour toujours. Mais si vous voulez suivre Jésus, quand même, quoi, faites en sorte d'en profiter un peu. Ah, en tout cas, moi, je vous ai dit, hein, il ne me réclamera pas votre sang. Prions. Mais je suis inspiré à vous donner des requêtes, compris au moins 5 minutes. Vous voulez ou bien on rentre. Hein? On prie 5 minutes? Parfait. Nous allons prier. Première requête, nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous a appris ces jours-ci. Nous allons le prier de faire en sorte que nous comprenions mieux encore après ce séminaire ce qu'il a voulu nous dire aujourd'hui et hier. Prions. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Nous allons demander au Seigneur que toutes les choses envoyées par Satan, qui sont de nature à nous faire oublier ce que nous avons appris, ou qui sont de nature à nous empêcher de le mettre en application pour être bénis, soient maintenant détruites et détruites définitivement par le sang de Jésus. Prions. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Nous allons redemander au Seigneur de nous entraîner dans le désert s'il faut, ou de nous protéger dans le désert si nous y sommes déjà, mais surtout de nous faire la grâce de nous parler, de parler à notre cœur, d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour que nous l'entendions. Car ce qui est triste, c'est d'être dans le désert et de ne pas en profiter au moins pour entendre la voix de Dieu. Nous allons demander à Dieu d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour que nous entendions sa voix dans le désert. Prions. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Nous allons demander au Seigneur pardon parce que chacun de nous a désobéi, chacun de nous a manqué de patience, chacun de nous s'est plaint. Nous allons lui demander la grâce, le sang de Jésus pour nous purifier, pour effacer tout ce que nous avons déjà semé comme péché par ces choses qui l'ont tellement énervé qu'elle a laissé l'Israël dans le désert. Prions. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Le Seigneur, c'est lui qui nous fait naître. Il nous a choisis, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Et il a dit que ce qu'il a commencé en nous, il accomplira. Nous allons lui dire que nous lui faisons confiance et que nous le remercions parce que nous savons déjà qu'il va nous circoncire le cœur. Que tout ce qui est mauvais en nous, que tout ce qui lui déplaît en nous, pas par notre force, mais par son esprit, il va nous l'arracher d'une manière ou d'une autre au nom de Jésus. Prions. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Nous avons demandé au Seigneur de faire en sorte que notre désert soit le plus bref possible et que quand l'heure sonnera d'assiéger nos murs de Jéricho, il nous donne, parce que c'est lui qui est le producteur et en même temps le consommateur de la foi, qu'il produise en nous la foi sans laquelle nous n'arrivons pas à faire tomber les murs de Jéricho par sa grâce. Prions. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Nous allons dire à Dieu que nous qui l'avons déjà sorti d'Égypte, nous lui demandons la grâce de ne jamais regretter l'Égypte et la grâce de ne faire aucune concession à Pharaon, de ne rien laisser dans notre vie qui soit un héritage de Pharaon que nous n'ayons pas vaincu, qui nous donne la détermination de rejeter tout ce qui vient de Pharaon et la force de détruire tout ce qui reste encore de Pharaon et de l'Égypte dans notre vie. Prions. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Dernière requête. Nous allons remercier le Seigneur parce que dans tous les cas, au nom de Jésus, chacun de ceux et celles qui sont ici vont entrer dans leur Jéricho. Mais nous allons remercier le Seigneur de rentrer dans leur Jéricho. Et nous allons surtout lui dire que nous savons que la plupart des gens, une fois dans leur Jéricho, ont cru que tout était accompli et qu'ils se sont permis de baisser la garde. Et qu'à ce moment, Dieu a dû frapper encore. Nous allons lui demander de nous faire la grâce. Que même quand nous allons entrer dans leur Jéricho, jamais nous détournons de lui afin de rester constamment sous sa bénédiction. Prions. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Excellent Père de gloire, Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Merci sans limite, merci infiniment. Merci parce que comme toutes les fois, tu étais encore là. Tu nous as puissamment visités. Tu as été au rendez-vous hebdomadaire que nous avons avec toi. Tu as touché, j'en suis convaincu des vies. Je te remercie, Seigneur, pour cela.
Merci pour ta présence manifeste ici. Merci pour les vies que tu as prises en charge aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les gens que tu as touchés. Je sais qu'ils sont nombreux. Je sais que tu ne lâcheras pas. Car quand tu rentres dans une vie, tu ne lâches pas, Seigneur. Je te remercie pour ces vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu les accompagnes, parce que tu les fortifies. Tu es toi-même le meilleur enseignant, le meilleur coach, le meilleur éducateur. C'est toi qui nous fortifies, c'est toi qui nous relève, c'est toi qui, dans ta patience, nous conduit. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu fais ça pour chacun de ceux et celles qui sont ici. Nous savons, Seigneur, que tu feras de chacune des vies ici présentes des témoins de ta gloire, de ta puissance. Nous savons que tu nous sortiras tous d'Égypte, que nous traversons victorieusement le désert, que nous rentrons dans notre Jéricho et que nous conquérions le ciel par ta grâce et ta faveur au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur, pour nos vies. Merci, Seigneur, pour nos épreuves. Nous te louons pour tout ce qui est dans notre vie. Nous te louons pour tout ce que tu as déjà fait. Nous te louons pour tout ce que tu es en train de faire. Nous te louons pour tout ce que tu laisseras faire. Nous te louons pour tout ce qui va arriver. Nous te louons, Seigneur, parce que nous avons la victoire. Nous te louons parce que nous ne combattons pas pour la victoire. Nous savons, Seigneur, que nous combattons dans la victoire. Nous te louons parce que, membres du club Jésus pour réussir, nous réussirons et nous démontrerons que tu es la réussite, Seigneur. Nous démontrerons à ce monde et à ce pays que tu es la solution, que tu es la lumière, que tu es la vie. Merci, Seigneur, pour cette faveur extraordinaire que tu nous fais, d'être des soldats de ton armée. Éternel Dieu des armées, merci parce que tu as accepté que nous serons des soldats. Merci parce que tu nous équipes. Merci que tu brises les durs parmi nous et que tu relèves, que tu endurcis un peu, que tu réveilles un peu, que tu secoues un peu les mous. Fais de nous des soldats, pas de vulgaires soldats, mais des commandos, Seigneur. Des commandos capables d'affronter le règne satanique pour ta victoire. Merci, Seigneur, parce que tu nous protèges. Merci, Seigneur, parce que tu nous guides. Merci, merci, merci. Merci, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Pouigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe?